sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.
Nous sommes dans une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à la Révolution française, l'histoire des luttes de classe, de genre et décoloniales. Une émission donc en trois parties. Une première partie sur les luttes de classe en France à partir du livre de Daniel Guérin, Bourgeois et Bramu, Guerre sociale durant la Révolution française, paru aux éditions Libertalia en 2013, avec en deuxième partie les luttes de genre durant la Révolution française, qui est le domaine de spécialité de notre invité que je vais présenter incessamment sous peu, et la troisième partie, donc sur les luttes décoloniales, donc autour de l'ouvrage Les Jacobins Noirs, Toussaint l'Ouverture et la Révolution de Saint-Domingue de C.R. James, paru aux éditions Amsterdam en 2017, et qui a été résumé dans Histoire des révoltes panafricaines, également de C.R. James, et également aux éditions Amsterdam. Et donc, pour parler de tout ça, nous sommes avec Caroline Fayolle, maîtresse de conférence à l'Université de Montpellier, membre du comité de lecture des revues La Révolution française et Revue d'histoire du XIXe siècle, et autrice sur ce sujet de La femme nouvelle, genre, éducation, révolution 1789-1830 aux éditions du CHTS en 2017, et de Le féminisme, histoire et actualité, aux presses universitaires Blaise Pascal en 2018, et elle a également co-dirigé Genre et Utopie, autour donc de l'œuvre de Michel Rio-Sarcé, aux presses universitaires de Vincennes en 2014. Et évidemment, elle a écrit de nombreux articles à ce sujet, dont un que je signale qui est particulièrement intéressant, qui s'appelle « L'universalisme en conflit, trois féministes européennes dans la Révolution française », et qui est donc disponible en ligne dans la revue Comment s'en sortir. Donc bonjour Caroline Fayolle.
Bonjour.
Alors, vaste programme qui nous attend. Alors, la lecture, disons, de la jeunesse de ces sociétés de classe et aussi de la Révolution française que j'utilise ici est celle du marxisme politique. Et donc, je m'inspire pas mal d'un ouvrage qui s'appelle Rethinking the French Revolution, donc Repenser la Révolution française, de Georges Comminel. C'est paru aux éditions Verso au moment du bicentenaire de la Révolution française. Et mon interprétation, disons, de l'origine de la Révolution française était la suivante, que la société de l'Ancien Régime n'était pas une société capitaliste, mais une société d'Ancien Régime, par exemple quelqu'un comme Jean-Yves Grenier parle d'économie d'Ancien Régime, une économie, une société qui ne sont pas encore gouvernées par les contraintes impersonnelles d'un marché unifié ou simplement des logiques de classe capitaliste ou des rapports entre prolétaires et bourgeois, mais par des logiques sur lesquelles on ne va pas s'étendre ici, par une société d'ordre, une société où la noblesse et le clergé occupent encore une place très importante, où la possession de privilèges, de monopoles est extrêmement importante, où il n'y a pas donc une logique de concurrence généralisée, il y a des douanes intérieures, il y a des corporations, donc il n'y a pas de marché du travail unifié à l'échelle de la France. Et donc tout ça fait que la structure de classe de la société d'Ancien Régime est quand même assez différente de la nôtre, puisque globalement, il n'y a pas que la richesse monétaire qui joue, puisqu'il y a également des logiques voilà, d'ordre, et également souvent ceux qu'on a qualifiés de bourgeois. c'est-à-dire entre guillemets les riches qui ne sont pas nobles, ne fonctionnent pas exactement comme la bourgeoisie, disons, du 19e ou du 20e siècle, dans le sens où leur idéal reste celui de d'être des nobles, c'est-à-dire d'acquérir des terres et d'en tirer une rente foncière. Donc c'est pas tellement une logique de l'investissement permanent pour rester compétitif sur un marché national extrêmement concurrentiel, mais plutôt une logique de thésaurisation pour faire des investissements qui visent à une promotion sociale et à assurer un revenu régulier avec donc un idéal aristocratique plutôt que l'idéal d'entreprises toujours plus importantes qui font face à une concurrence mondiale, etc. En lien avec cette structure de classe et cette logique économique de la société française, Georges Comminel proposait d'expliquer la Révolution française comme le fait que cette société française, donc qui est basée sur cette logique, disons, d'ancien régime, s'est trouvée face à une société qui, elle, était déjà capitaliste, qui était la société anglaise, et qui, elle, fonctionnait selon le principe, effectivement, de classe capitaliste, d'un marché national unifié, extrêmement concurrentiel, etc. Et à partir de la fin du XVIIe siècle, ces deux sociétés se sont régulièrement affrontées militairement, notamment, et pour Comminel et les marxistes politiques, c'est un point de bascule, au cours de la guerre de 7 ans, où la France va être laminée, va perdre ses colonies en Amérique du Nord, le Canada, l'Inde, et finalement, bon, la plupart comme colonies, celles dont on va parler, notamment Saint-Domingue. Et en fait, c'est lié pour les marxistes politiques à la supériorité en fait militaire de l'Angleterre, qui est elle-même permise par la supériorité de son modèle économique entre guillemets. Et ça n'a rien de positif, hein. Les marxistes politiques sont évidemment anticapitalistes, mais ils considèrent que, à ce moment-là du moins, la logique capitaliste, notamment parce qu'elle permettait une plus grosse productivité agricole, une plus grande efficacité, etc., eh bien ça donnait une supériorité militaire. Et donc, ensuite, ça c'est notamment David McNally qui l'explique dans un de ses livres, donc c'est un autre marxiste politique, dans un de ses livres qui s'appelait Political Economy and the Rise of Capitalism. Donc lui il expliquait que c'était donc suite à cette guerre de 7 ans qui avait été un désastre pour la France, qu'en France il allait y avoir des tentatives de réforme de la société française sur le modèle anglais avec les physiocrates. Donc ils vont régulièrement occuper des postes très importants dans le gouvernement monarchique à partir de ce moment-là. Ils vont essayer en fait de, par l'absolutisme et non pas par, comme en Angleterre, le capitalisme était globalement le produit de l'aristocratie, qui était progressivement, qui s'est passé d'une aristocratie féodale à une aristocratie capitaliste, notamment à travers l'expropriation des paysans. Et là, dans le cas français, les physiocrates espéraient que la monarchie absolutiste pourrait jouer le même rôle et restructurer la société française pour lui donner une base économique, et donc fiscale, et donc militaire, supérieure. Et donc, notamment, procéder à l'abolition des corporations, donc l'établissement d'un marché du travail national libre, et aussi la fin d'une logique de monopole, de limitation des quantités de production, une logique de concurrence qui permettrait l'augmentation de la productivité, etc. etc. L'abolition de toutes les barrières douanières internes, qui est évidemment un frein au commerce et à la compétition généralisée. Et éventuellement, de ça découlerait notamment la restructuration de la propriété foncière, qui en France, il faut le préciser, est très différente de celle en Angleterre. C'est-à-dire qu'en Angleterre, globalement, c'est l'aristocratie qui, au XVIIIe siècle, possède l'essentiel des terres avec la bourgeoisie, alors qu'en France, c'est globalement la paysannerie qui tient 50 à 55% des terres et qui cultive globalement le reste d'ailleurs aussi, plutôt sous forme de location, de métayage, etc. Et donc, pour les physiocrates, le manière d'opérer ça, c'était la liberté du commerce des grains. Donc, ils vont essayer plusieurs fois de mettre en place cette mesure qui aurait donné naissance à une espèce de marché national de compétition entre les producteurs de blé, et qui aurait instauré une espèce de dynamique de compétition généralisée, qui aurait éliminé tous les petits paysans, qui aurait forcé la bourgeoisie, l'aristocratie à investir dans des moyens de production, augmenter leur productivité, utiliser les salariés agricoles, et pas simplement les louer aux paysans du coin pour une somme exorbitante. Et en fait, bon, ces réformes vont échouer plusieurs fois par l'opposition d'une grande partie de l'aristocratie, qui est évidemment opposée à toute forme de changement social. Bon, la monarchie craignant une forme d'instabilité sociale, et il y a des moments, effectivement, comme la guerre des Farines entre 1774 et 1776, où il va y avoir des révoltes très importantes dans Paris, il va y avoir une répression féroce, mais disons qu'évidemment, les mesures de libéralisation du commerce provoquent du mécontentement du côté des classes qui sont intéressées au statu quo, et aussi du côté des classes, notamment urbaines, qui veulent un pain pas cher, quoi. Et donc, toutes ces tentatives de réforme vont successivement échouer. Et le problème, c'est que, dans le même temps, la France continue de subir la pression militaire et commerciale de l'Angleterre. Donc il y a notamment l'épisode de la guerre d'indépendance américaine, qui va ruiner les finances royales, et la tentative, disons, de moderniser de force la société française de 1786 avec un traité de commerce qui, en gros, ouvrait la France aux marchandises anglaises et l'Angleterre aux marchandises françaises, va s'avérer un désastre, puisque l'industrie française, en fait, n'est pas du tout compétitive par rapport à l'industrie capitaliste anglaise. Et donc, ce qui va se passer, selon l'interprétation du marxisme politique, c'est que, d'une part, l'ancien régime cherche à affronter l'Angleterre sur un terrain militaire et un terrain commercial, mais elle n'y arrive pas et elle se ruine ce faisant. Et du coup, le roi va être forcé notamment de convoquer les états généraux en 1789, qui est un peu le moment fondateur de la Révolution française, d'un point de vue, disons, événementiel. Et d'autre part, ces tentatives récurrentes de restructuration vont provoquer du mécontentement de part et d'autre. D'une part, un mécontentement réactionnaire de la part d'une partie de l'aristocratie et du clergé qui vont s'arc-bouter sur leurs privilèges, et qui vont former le camp contre-révolutionnaire, d'ailleurs, pendant la Révolution française. Et d'autre part, un mécontentement populaire qui n'apprécie pas les tentatives de libéralisation du commerce. Et puis, troisièmement, on pourrait dire un mécontentement de la part de ceux, comme les physiocrates, ou une partie de ce qu'on peut appeler la bourgeoisie libérale, mais qui en réalité sont pas des propriétaires de moyens de production, qui sont souvent des avocats, des gens, disons, qui sont destinés un petit peu à faire de la politique, qu'on va retrouver au cœur de la classe politique révolutionnaire, eh bien, ces gens-là ne sont pas satisfaits du fait que la monarchie n'arrive pas à réformer structurellement la société française. Ils ont toutes ces contradictions, entre guillemets, ces contradictions de classe, ces contradictions entre réforme et réaction, et cette contradiction interne, disons, à la société d'ancien régime et à la monarchie absolutiste, vont préfigurer le cocktail de 1789. Et donc, c'est dans ce théâtre que vont se produire tous les événements dont parle Daniel Guérin, donc dans Bourgeois et Branu. Peut-être qu'on pourrait expliquer un petit peu dans quel contexte Daniel Guérin a écrit ce livre.
Oui, alors Daniel Guérin, pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien, c'est une figure du marxisme libertaire en France. C'est un intellectuel, c'est un militant. Il va nous intéresser en plus particulièrement aujourd'hui parce que, justement, dans cette approche un petit peu intersectionnelle qu'on a essayé de faire entre la classe, le genre et la race, finalement, Guérin, c'est quelqu'un qui s'est intéressé aussi à la pluralité de ses aspects dans ses engagements. Hein. C'est quelqu'un qui a travaillé sur la question de la classe en Révolution française, on va en parler tout de suite. Mais c'est aussi quelqu'un qui s'est engagé à la fin de sa vie dans le Front homosexuel d'action révolutionnaire, donc la classe MUFAR. Donc qui était aussi, il y avait beaucoup de féministes matérialistes qui étaient présentes dans le phare, comme Christine Delphi. Donc il y a eu dans ses engagements ce lien fort avec la question des minorités sexuelles et sexuées. Et puis c'est aussi quelqu'un qui s'est engagé dans les luttes décoloniales, et notamment aussi qui a fait un voyage aux États-Unis ou qui a suivi les luttes des Noirs américains, etc. Finalement, par cet engagement, il a abordé un petit peu plein d'aspects, donc c'est pour ça que c'est une figure tutélaire assez bien pour cette émission. Alors, pour revenir à ta question pourquoi il s'est intéressé à la Révolution française, ça vient après-guerre. Et le point de départ de Guérin, c'est l'effondrement des idéologies. Alors, c'est quelqu'un qui va être profondément anti-stalinien, qui va du coup prendre ses distances avec le communisme classique, orthodoxe. Et il va partir de l'idée que la gauche doit reprendre tout depuis zéro, en fait. Et donc, parce qu'on doit reprendre depuis zéro, il faut aller faire appel à l'histoire, appel au passé, et notamment à un événement fondateur qui est la Révolution française, pour finalement se reconstruire une pensée politique critique. Et donc, ce qu'il va essayer aussi de chercher dans la Révolution française, c'est un peu une des obsessions que va avoir Daniel Guérin, et qui explique très bien Dion dans sa préface à l'ouvrage dont tu as parlé, qui a fait une remarquable préface à cet ouvrage, qui est ressorti chez Libertalia, c'est qu'il cherche à faire une synthèse entre marxisme et pensée libertaire, marxisme et anarchisme. Et il va essayer d'aller voir en quoi la Révolution française n'a pas les germes d'une pensée politique, d'une pratique aussi politique, parce qu'on pensait d'une pratique qui permettrait de l'aider à construire cette synthèse entre anarchisme et marxisme. Donc voilà, donc c'est vraiment un impératif politique qui va guider Daniel Guérin vers l'histoire. c'est pas un érudit, c'est un rapport à on va aller juste s'intéresser à ce que c'est, etc. Non, il y a vraiment l'idée que l'histoire est là pour répondre à un problème du présent. Je crois que c'est aussi ça qui fait l'actualité de la pensée de Daniel Guérin, c'est parce qu'il a une écriture qui est portée par une exigence politique et une urgence politique, en fait.
Oui, c'est d'ailleurs intéressant aussi pour aujourd'hui de s'intéresser à la Révolution française de cette manière-là. La Révolution française, d'une certaine manière, on a l'impression aujourd'hui que c'est devenu un petit peu un objet froid. C'est plus l'objet de discussions passionnées comme au cours du 19e et du 20e siècle entre les interprétations contre-révolutionnaires, bourgeoises et libérales, et enfin marxistes-jacobines. Et du coup, finalement, le livre de Daniel Guérin, il permet à la fois de proposer une autre interprétation qui, à notre avis, est plus intéressante, notamment parce que elle offre notamment un point de vue critique sur tous les gouvernements révolutionnaires, et pas seulement sur celui des Girondins, ou aussi notamment sur la figure de Robespierre, du Comité de salut public, ou le gouvernement Montagnard, qui en général à gauche est porté au nu et pas du tout critiqué. Et je pense que Guérin a eu quand même une critique là-dessus. Ils ont intéressant jusqu'à aujourd'hui pour la critique, disons, d'une gauche de gouvernement, même une gauche un petit peu autoritaire et antilibérale. Et puis, d'autre part, il va chercher, disons, dans la Révolution française quelque chose qui est très intéressant, qui est des luttes de classe, au-delà, disons, des différents partis qui s'affrontent, du clivage gauche-droite, etc. Et ça, c'est quelque chose quand même de très intéressant.
C'est ça. En fait, Guérin aussi, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que c'est pas un universitaire. Donc, il va pouvoir finalement faire un pas de côté par rapport à l'institution aussi. Je pense que ça joue dans son écriture et dans sa manière de proposer une vision de la Révolution française. Mais c'est en même temps quelqu'un qui n'est pas universitaire, mais qui va chercher toujours à dialoguer quand même avec les universitaires, et notamment l'école, qu'on a appelée l'école jacobine, un petit peu, qui est représentée par des grandes figures, comme Lefebvre, comme Soboul, etc. Et finalement, ce dialogue n'a jamais vraiment eu lieu, mais il y a quand même des transferts, on sent qu'il y a eu des influences et des lectures qui ont été faites quand même entre les deux mondes. Et c'est vrai que un des buts de Guérin, c'est ce qu'il a dit très tôt, c'est la volonté de déjacobiniser la Révolution française. Déjacobiniser, c'est parce que voilà, il a l'impression que finalement, que ce soit dans la lecture libérale ou dans la lecture marxiste orthodoxe, finalement, il y a toujours l'idée que la Révolution serait un peu une unité et qu'elle serait mue finalement par le projet jacobin. Qu'on soit contre elle ou pour elle, il y aurait cette unité. Or, ce qui est intéressant dans la démarche de Guérin, c'est qu'il va essayer de finalement trouver la Révolution française et son double. Je dirais pour un peu sa référence aussi au fameux texte de Trotsky qui a beaucoup influencé Guérin. C'est-à-dire qu'il va essayer de voir le conflit dans la Révolution française et restaurer cette conflictualité pour voir apparaître plusieurs modèles révolutionnaires qui vont s'affronter. Et il se trouve que ces modèles révolutionnaires qui s'affrontent, c'est à la fois des modèles qui viennent d'un antagonisme de classe, mais c'est aussi un antagonisme politique, c'est-à-dire ces deux modèles de démocratie qui s'affrontent aussi. Ah bien sûr, les deux sont liés. Mais il y a vraiment cet aspect à la fois structurel de classe et l'aspect politique aussi qui est présent chez Guérin, qui est articulé, sachant qu'il va, pour réfléchir à ce dédoublement de la Révolution française, s'inscrire dans une lignée de penseurs anarchistes, quand même, qui ont fait un regard aussi un petit peu différent sur la Révolution française.
Comme Kropotkine, par exemple.
Plus que Proudhon, c'est Kropotkine, effectivement, qui va lui aussi essayer de dédoubler la Révolution française, lui aussi s'insurger un peu contre les historiens dominants de son temps, les Louis Blanc, les Michelet, etc., qui, il estime aussi qu'ils sont trop pris par les figures des dirigeants révolutionnaires, et finalement qu'ils laissent complètement invisibles ceux qui font la révolution, en fait, par le bas, comme on dit, ceux qui la font par l'insurrection aussi, et qui ont inventé finalement plein de pratiques politiques nouvelles, qui sont donc les classes populaires. Kropotkine va jusqu'à voir dans les classes populaires des anarchistes, il va les appeler déjà les anarchistes, sachant que le mot est un peu piégé à ce moment-là dans ses études, puisque pendant la Révolution française, on utilisait le terme anarchiste, mais dans un sens tout à fait différent, c'était un terme péjoratif pour dire, il y avait les contre-révolutionnaires, les anarchistes, et tous ceux qui faisaient que la Révolution n'allait pas aboutir. Donc Kropotkine, c'est un petit renversement sémantique, un petit peu provocateur, et donc va dans la Révolution française un affrontement entre un modèle jacobin centralisé, qui a ce fameux préjugé gouvernemental dont parle Proudhon, et une composante populaire qui viendrait défendre un modèle anti-hiérarchique et anti-étatique de la Révolution.
Et justement, par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est ce que fait Kropotkin comme ce que fait Guérin, c'est qu'en fait, il déplace le clivage d'un clivage qui finalement est interne à ce qu'en général on appelle la bourgeoisie, mais qui serait peut-être plus propre d'impler, disons, les professions intellectuelles et libérales, puisque c'est ça globalement la classe politique révolutionnaire. Il y avait également une historienne qui parlait de bourgeoisie d'ancien régime, pour désigner un petit peu tous ces avocats, ces notaires, qui finalement sont pas des bourgeois au sens marxiste, propriétaires de moyens de production, mais qui, voilà, appartiennent à justement une certaine classe, qui en général ont un titre, une reconnaissance sociale, une forme de rente, etc. Et du coup, finalement, la critique que propose Guérin, c'est d'une part de relire les affrontements politiques entre montagnards et girondins, et avant entre, disons, ceux qui sont plus proches du roi, les feuillants, et d'autre part les jacobins. Enfin voilà, relire toute l'histoire de ces affrontements comme finalement des affrontements au sein de la bourgeoisie révolutionnaire, et pas comme l'ensemble des affrontements de la société de l'époque, et d'autre part, d'en faire une sorte d'analyse matérialiste en disant, par exemple, que les Girondins représentent plutôt les intérêts du commerce extérieur, des colonies, alors que les Montagnards représentent plutôt les intérêts des manufactures d'armement, disons de ceux qui ont le plus à perdre en cas de contre-révolution, notamment ceux qui sont propriétaires qui ont acquis des biens nationaux, donc toutes ces terres qui ont été confisquées au clergé et à l'aristocratie réactionnaire. Et en même temps, ils ne se contentent pas non plus que de faire cette espèce d'analyse matérialiste des contradictions à l'intérieur de la classe bourgeoise, mais ils vont finalement dire le clivage principal, c'est pas tellement celui-là, mais c'est plutôt un clivage entre bourgeois et bras nus, quoi.
Voilà, c'est ça. Je dirais même que, à la lecture aussi, affrontement entre la noblesse d'ancien régime et la bourgeoisie naissante, et qui est une lecture aussi traditionnelle de la dynamique de la Révolution française, il va montrer qu'il y a l'avènement finalement d'un autre antagonisme de classe entre bourgeois et bras nus. Alors après, reste à savoir qui sont ces bras nus, justement. Hein. Ça, c'est toute la complexité de la chose, et c'est aussi un des points un peu de discussion qui a pu avoir lieu entre les travaux de David Guérin d'une part et le grand spécialiste de la Sainte-Lotrie qui est Soboul qui a lui a fait un travail d'archives tout à fait titanesque sur la Sainte-Lotrie parisienne, chose que n'a pas fait Guérin, hein, qui s'appuie plus sur des sources secondaires. Et donc, comment définir ce bras nu? Alors il y a plusieurs problèmes qui se posent. Déjà, c'est Guérin, bon, le bras nu ça peut s'assimiler au sans-culotte, à cette figure du sans-culotte. Alors là, il y a plusieurs problèmes qui se posent là précisément. C'est que d'une part, les sans-culottes, comme l'a montré Soboul, c'était pas ce qu'on appelait après au XIXe siècle les ouvriers. Il pouvait avoir des ouvriers déjà, il y avait déjà des ouvriers bien sûr, mais il y avait ce qu'on appelle aussi les artisans, les boutiquiers, etc. Et ça pouvait aussi être des travailleurs qui possédaient leurs propres moyens de production, à toute petite échelle pour autant, hein, mais qui n'étaient pas totalement dépossédés.
C'est pas des prolétaires.
Du coup, en ce sens-là, l'expression bras nus, prolétaires, etc., peut poser problème, puisque on est effectivement, exactement ce que je disais au départ, cette lecture, la bourgeoisie détient moyens de production et les prolétaires sont ceux qui sont exploités parce qu'ils n'ont pas de moyens de production et donc que leurs bras pour travailler, ne correspond pas totalement au sens de la Révolution française. On va dire qu'il y a une diversité sociologique qui est beaucoup plus grande du fait qu'on est dans encore un modèle, comme tu disais, économique dans sa régime.
D'ailleurs, ça, on va le retrouver pour 1830, 1848 et même jusqu'au 1871. En fait, cette sociologie, entre guillemets, disons, des classes populaires révolutionnaires, c'est pas des prolétaires en 1830, en 1848, en 1870, c'est aussi des artisans, il y a aussi
Les choses ont aussi quand même pas mal changé dans les années 40. On va avoir justement l'affirmation de la figure du prolétaire avec la révolution industrielle qui commence à prendre des proportions très importante en France, et qui fait que commence à apparaître cette figure-là de celui qui n'a que ses bras pour travailler. Et c'est vrai que là, c'est le socialisme, et même Marx va être hérité aussi de cette reconfiguration des classes populaires. Mais c'est vrai que la Révolution française, il y a ce jeu d'ambiguïté qui fait que projeter le schéma de classe tel qu'on l'a connu dans le 19e siècle, et aujourd'hui, évidemment, est à manier avec précaution. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser, mais à chaque fois, à montrer, comme l'a fait Thompson, qu'il y a une historicité de la classe, que la classe, c'est pas quelque chose finalement, c'est pas un schéma qu'on peut plaquer comme ça sur des réels historiques, mais au contraire montrer comment ça se forme, comment ça évolue, comment ça se reconfigure. Et donc, premier problème, c'est qu'ils sont ces sans-culottes. Deuxième problème aussi, c'est Soboul qui a insisté là-dessus, et là je pense qu'il n'a pas tort, la sans-culotte, c'est aussi une catégorie politique pendant la Révolution française. Ça renvoie pas seulement à une appartenance aux classes populaires. C'est toute une figure, par la question de la vie, hein, qui écho d'ailleurs pas mal aux gilets jaunes. Et puis c'est aussi une catégorie qui implique d'être pour, après septembre 90, d'être pour la République, par exemple, etc., etc. Donc c'est pour ça que l'opposition que fait Daniel Guérin entre bourgeois et branus, ça va être plutôt une opposition finalement entre donc des révolutionnaires qui ont un projet politique qui est à la fois mu par une pensée libérale quand même, même si dans ce libéralisme politique, il y a beaucoup de variantes, c'est une étiquette un petit peu, peut-être un peu trop vaste, et en tout cas aussi qui avait une volonté de construire un État, de moderniser l'État, et qui fonctionnait avant tout sur la notion de système représentatif. Tandis que les classes populaires qui se sont engagées massivement dans la Révolution française auraient, selon Guérin, défendu un modèle démocratique qui serait plus un modèle de ce qu'on pourrait appeler, en tout cas, proximité avec la démocratie directe. Donc une critique finalement de cet élément de la représentation, en tout cas une relecture de la représentation qui serait beaucoup plus complexe. Et il a tout à fait raison de voir qu'il y a une tension permanente entre, par exemple, les députés de l'Assemblée nationale et, d'autre part, ce qu'on a appelé la Commune de Paris, où, après la République, les sans-culottes, c'était quand même un lieu d'expression de la pensée sans-culottes. Et il y a aussi, bien sûr, les sections, on appelle les sections parisiennes, hein, qui sont des lieux où on délibère à l'échelle locale. Et dans ces lieux de délibération à l'échelle locale, on va aussi penser des modèles comme, par exemple, non pas le représentant, mais le mandataire. Déjà, il y a tous ces débats qui avaient été analysés par aussi Maurice Gentil, qui a fait des ouvrages intéressants sur la question. Donc, mandataire, c'est-à-dire qui est révocable et qui est sans cesse aussi sous la surveillance populaire. Et qui n'est pas du tout l'idée qu'il y a une délégation de souveraineté, comme le propose le système représentatif.
Finalement, l'aboutissement un peu de cette dynamique, c'est les idées de Gracchus Babeuf.
Oui, il termine sur les idées de Babeuf, effectivement. Pour lui, il va chercher dans la Révolution ce germe d'une pensée anti-étatique et populaire, et il va voir dans, finalement, la pensée de Babeuf, une conceptualisation de cette pensée populaire qu'il a vue, qu'il a étudiée en acte entre 93 et 95. Donc Babeuf, c'est l'aboutissement un petit peu conceptuel de ses expériences politiques.
Et d'ailleurs, c'est intéressant, seulement Babeuf, quand on lit un peu précisément ce qu'a fait Babeuf, on voit que, entre guillemets, l'idéal, disons, d'une société, où la révolution aurait triomphé et tout ça, est quand même très différent du modèle de celui du milieu du 19e, fin 19e siècle, puisque lui, il envisage plutôt une société de petits propriétaires, plutôt qu'une société où il n'y aurait plus de propriété privée, et finalement, il envisage plutôt, une socialisation des moyens de consommation et distribution, entre guillemets. Et là, finalement, il réplique une expérience que lui-même avait vécue, c'est-à-dire des espèces de magasins où il y avait une partie des productions qui étaient collectées et ensuite redistribuées selon une logique en fonction des besoins des gens. Mais il ne va pas jusqu'à l'idée, par exemple, ou très peu, d'une espèce de socialisation des moyens de production. Il reste quand même plutôt dans un idéal. Et ça reflète aussi la structure de la société française de l'époque, qui était l'existence d'une classe paysanne composée 80% de la population, et qui était des petits propriétaires, globalement, ou qui aspiraient à des petits propriétaires, ça dépendait des cas. Et d'autre part, de très nombreux producteurs qui n'étaient pas encore complètement dépossédés de leurs moyens de production, mais qui les possédaient individuellement, ou dans le cadre d'accompagnonnage, etc.
Oui, tout à fait. Après, on peut dire que la pensée de Babeuf aussi s'inscrit dans ce qu'on a appelé a posteriori les utopistes du 18e, que Stéphanie Rosa, a étudié. Par ailleurs, même ce qu'on a appelé aussi les utopistes jusqu'en 1848, jusqu'à 1848, pour une part, avaient certes une critique de la propriété, mais n'étaient pas dans une logique d'étatisation, etc. Parce que justement, ça pouvait être vu comme le préjugé gouvernemental mental à nouveau, ou le préjugé étatique qui viendrait empêcher au contraire la dynamique naturelle du travail, qui viendrait s'auto-organiser, l'auto-organisation par le travail. Donc du coup, c'est vrai qu'on est dans un temps où il n'y a pas encore d'opposition radicale entre d'une part propriété et communautarisation et étatisation. On n'est pas dans ce schéma-là encore. Mais après, c'est vrai, ce qui est intéressant quand même chez Guérin, mais il y a des jeux d'écart parfois qu'on peut remarquer, c'est que Babeuf, c'est quelqu'un qui a quand même une critique du système de la propriété. Enfin, on voit une forme de communisme chez Babeuf. Est-ce que c'est présent chez les sans-culottes? C'est à discuter. Et c'est vrai que Guérin a tendance à vouloir un peu englober tout ça. Alors bien sûr, il y avait une pluralité de profils, il y avait une pluralité d'intérêts à l'intérieur même de la sans-culottrice, déjà. D'autre part, il y a eu beaucoup de propositions qui ont été soutenues par la sans-culottrice, qui étaient des propositions d'étatisation de l'économie, comme la fameuse loi sur le maximum, qui visait justement à fixer un maximum des prix du grain. Enfin, ça s'est étendu à d'autres denrées, pour empêcher justement les phénomènes de spéculation, etc. Puis ça s'accompagnait de la lutte contre ce qu'on appelait des accapareurs. Et donc là, c'était l'idée, c'est à l'État de réguler une économie pour protéger les classes populaires. Donc là, est-ce que, du coup, on peut voir dans cette mesure-là la fameuse pensée démocratique anti-étatiste que suggère Guérin? C'est pas évident. Mais, oui. Mais et en même temps, il en a conscience, hein, Guérin, mais il montre que c'est en tension tout ça. Hein, mais...
Même chez Babeuf, d'ailleurs, l'idéal de la République, il y a quand même un État encore chez Babeuf.
Oui, tout à fait. Oui. Même si après, on peut voir aussi des germes de pensée de fédération, de ce qu'on pourrait appeler de commune locale. Et d'ailleurs, Guérin va s'intéresser aux districts, puis après aux sections, enfin à tous ces projets de création d'entités locales d'autogestion, en fait, hein, on dirait aujourd'hui. Et il y avait certains projets qui commençaient à fleurir de fédéraliser ces différentes entités politiques. Et lui voyait ça comme un germe possible pour penser justement un modèle décentralisé et anti-étatique, qui n'aurait pas été totalement théorisé pendant la Révolution française, mais l'idée serait là, en germe. Et dans ce germe, il y a quelque chose qui est un possible, qui va continuellement chercher à exister, après, dans tout le 19e siècle, va traverser comme ça le 19e siècle jusqu'au 20e siècle, et il estime que c'est ce germe qu'il faut retrouver, en fait, pour construire la gauche de l'avenir.
Oui, c'est là, effectivement, où la Révolution française est un moment un peu fondateur, à la fois, donc, de cette lutte de classe qui, pour la première fois, prend en partie une forme qu'on va retrouver au 19e siècle, et puis aussi au niveau de la pensée politique, où on commence à, émettre des idées de... Notamment, tout à l'heure, quand je parlais de socialisation, qui peut être aussi une socialisation non étatique. C'est-à-dire l'idée qu'on peut collectivement avoir des moyens de production sans que ce soit l'État, mais que ce soit une commune, par exemple. Et à la fois, on voit les germes un petit peu de cette pensée, au niveau des structures socio-économiques, et puis en même temps, au niveau des structures politiques, commence à y avoir les germes de l'idée d'une fédération qui se reposerait à l'État, puisque l'État, c'est une logique centralisée, bureaucratique et du haut vers le bas. Donc là, du coup, ce serait une structure décentralisée, du bas vers le haut, et non autoritaire, puisque précisément, il y aurait tout ce système de mandat, de contre-pouvoir, qui fait en sorte que le pouvoir ne puisse jamais se concentrer, quoi.
Et tout à fait. Et ce qui donne après, des fois, dans sa tentative toujours de cette synthèse entre marxisme et anarchisme, dont je parlais au début, qui l'anime, à un moment, il explique... qu'il y a deux systèmes d'avant-garde qui s'affrontent aussi. Il y a l'avant-garde jacobine qui va donner le modèle de la dictature jacobine, donc de la terreur. Et à cela, il répond que finalement, chez les sans-culottes, il y a aussi une avant-garde. On est dans une pensée où les avant-gardes étaient très importantes dans les années 50. Donc je pense que ça a joué aussi sur sa vision. Et que dans cette avant-garde sans-culottes, il y aurait aussi le germe de la dictature du prolétariat. Donc qu'en fait, la dictature du prolétariat, il s'appuie sur un texte de Engels qui dit que c'est la Révolution française qui a fait la première expérience de la dictature du prolétariat. Donc le terme dictature, bien sûr, pas à prendre comme il peut avoir en son sens encore aujourd'hui, mais il serait à prendre en compte comme l'idée justement d'une avant-garde qui prendrait momentanément le pouvoir pour pouvoir instaurer cette république anti-autoritaire. Donc il y a ce paradoxe, cette tension à nouveau qui anime Guérin et sa vision de la révolution du coup.
Oui, qui est évidemment lié à son parcours politique extrêmement tumultueux, qui vient du trotskisme des 1930, et qui va progressivement devenir libertaire sans rompre jamais complètement avec son trotskisme et son côté avant-gardiste notamment.
C'est ça, tout à fait, exactement.
Et par rapport à ça, j'avais trouvé assez intéressante, alors peut-être un petit peu trop structurée, mais je me demande qu'est-ce que dit l'historiographie aujourd'hui, quand il repart de la guerre en fait, de la déclaration de guerre d'avril 1792, et que la guerre évidemment est un événement central à partir du moment où elle est déclarée de la Révolution française. On pourrait dire que c'est une des grandes dynamiques structurantes de la Révolution française.
Mmh,
qu'est-ce qu'on peut dire de toutes ces thèses sur le fait notamment que la bourgeoisie révolutionnaire a besoin, du fait qu'elle est dans la guerre, d'une espèce de radicalisation politique progressive et de s'assurer d'une certaine manière le concours des classes populaires, quoi, des bravis.
Mais c'est ça en fait, c'est que là où finalement les classes populaires vont avoir, un rôle d'en bas très clair, mais c'est aussi pression sur les députés. Et c'est cette pression populaire qui va faire le vote de certaines lois, certaines décisions sociales notamment. Il faut toujours penser qu'il y a effectivement, c'est dans le rapport de force, dans cette conflictualité, que peut s'expliquer aussi des positions de Jacobins qui peuvent paraître assez radicales sur certains points, mais il faut le remettre dans ce contexte-là. Et on va le voir aussi pour la question coloniale, c'est la même chose. Les députés vont être clairement sous pression aussi pour prendre les décisions, notamment d'abolition de l'esclavage. Et donc, le contexte de la guerre, c'est bien sûr que ce qui va se passer, c'est qu'on a un modèle de citoyenneté qui est le modèle du citoyen-soldat qui apparaît. C'est celui qui va combattre, et évidemment, c'est ce modèle du citoyen-soldat de 92 qui va émerger, qui va faire d'ailleurs que le suffrage universel, puis la constitution de l'an 1, qui sera finalement jamais appliquée, en 93, va être mis en place. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce modèle seulement où c'est les députés bourgeois de l'Assemblée qui vont un peu expliquer au peuple comment il faut se conduire et comment, quelles normes il faut adopter, mais tout d'un coup, le citoyen-soldat qui devient le modèle du vrai citoyen, qu'on appelle la régénération des messieurs, qui va chercher à incarner les valeurs du bon citoyen. C'est au peuple d'apprendre aux bourgeois à incarner ce modèle de citoyenneté vertueux. Donc, et là, on retrouve aussi, du coup, cette idée que la guerre va complètement transformer le rapport de force entre députés et gouvernés.
Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que finalement, ce que montre Guérin un petit peu, c'est que dans les phases où l'armée révolutionnaire est en difficulté, ce sont des phases où le rapport de force va être plus en faveur des sans-culottes. Et par contre, quand il y a des phases de victoire militaire, et c'est pour ça que finalement Bonaparte est celui qui va mettre un terme finalement à cette période d'intense lutte de classe, parce que précisément il va obtenir suffisamment de victoires militaires pour finalement avoir les mains libres entre guillemets pour réprimer les classes populaires à Paris notamment, parce que évidemment le livre de Guérin, on l'a pas trop précisé, mais c'est quand même très centré sur Paris, comme beaucoup d'histoires de la Révolution française. Et par contre, ce rapport à la guerre, c'est ce qui explique notamment l'évolution de l'attitude de Robespierre, qui est évidemment toujours le grand héros de la gauche étatiste encore aujourd'hui, et qui dans les phases où finalement la France est moins en danger à la fin 1793 et début 1794 va être plus capable notamment de faire des mesures qui sont clairement dirigées contre les classes populaires, contre leurs avant-gardes, notamment les enragés.
Oui, tout à fait. Alors ça aussi c'est un élément important qui est cette fameuse figure de la lutte, pas seulement entre Girondins Matanard, mais contre des Jacobins, contre, on pourrait appeler l'extrême-gauche un peu de l'époque, notamment les hubertistes, puis les enragés. C'est des militants particulièrement intéressants, puisqu'ils vont défendre un modèle politique radical qui va finalement dévoiler aussi, je dirais, le conservatisme de figures comme Robespierre. La répression de ces mouvements-là qui permet aussi de mieux illustrer ce que veut dire Kropotkin après sur l'idée de bourgeoisie autoritaire, etc. Il dit, il faut se défiler avec la figure de Robespierre, c'était pas quelqu'un qui voulait amener le peuple au communisme. Il n'est pas tout seul Robespierre, on est bien d'accord, il n'y a pas de
corps
de Robespierre, il était
non,
mais en tout cas, ce courant politique qui était majoritaire à un moment, voulait défendre ce qu'il nommait même un ordre républicain. Et cet ordre républicain, il imposait de réprimer des positions qui étaient plus radicales que les leurs. C'est vrai que les valeurs sont compliquées parce que même les Russes, même les Lénine, etc., ont eu ces mythes de Robespierre, en fait. Ce qui fait que c'est dans le marxisme orthodoxe que Guérin combattait, finalement, pour ces marxistes orthodoxes, On pourrait penser qu'ils ont un recul critique vis-à-vis ça, puisque ces mesures ne sont pas proprement, vont pas dans le sens du communisme tel qu'il pourrait aspirer. Ben non, ils vont rester dans ce modèle de la figure pré-Lénine ou pré-Staline que pourrait incarner Robespierre. Ce qui est un fantasme total, hein, mais qui a animé finalement l'historiographie. C'est vrai que David Guérin, on l'a beaucoup accusé, à travers sa critique de Robespierre féroce, d'être une critique derrière de Staline. Donc il y a des jeux de fantômes comme ça qu'il y a entre la Révolution russe, la Révolution française, puis qui explique aussi et David Guérin et sa réception.
Oui, ça c'est intéressant, parce que effectivement, finalement, le fait que Robespierre ait été si peu critiqué dans le marxisme, c'est lié évidemment au fait qu'on voyait dans Robespierre un précurseur de Lénine. Et je rajouterais aussi le fait que, et ça je pense que c'est quelque chose qui limite un petit peu Guérin sur certains aspects, c'est cette lecture un peu téléologique de l'histoire, comme une succession de modes de production automatique et structurelle, où il y a très peu de place pour les acteurs de l'histoire, leur capacité à faire l'histoire, même si c'est pas dans les conditions qu'ils ont choisies.
Et à être transformés eux-mêmes.
C'est ça.
Par les événements, oui.
C'est aussi lié à une vision donc, de toute la gauche, même marxiste, de la Révolution française comme une étape nécessaire sur le chemin du capitalisme, puis du socialisme, puis du communisme. Et chez Guérin, on voit un petit peu parfois cette idée de c'était la limite objective, il pouvait pas aller plus loin. Donc finalement, il redonne beaucoup d'agentivité, entre guillemets, on dirait. Aujourd'hui, il fait moins peser cette espèce de téléologie historique à l'aune de laquelle la Révolution française a si souvent été jugée, positivement ou négativement. Il y en a d'autres qui ont fait figure au pouvoir, comme François Furet, qui disent que finalement, tout ce qui s'est passé après 1789, c'est une erreur de l'histoire. Et qu'est-ce qu'on peut dire, justement, par rapport au fait que Guérin, à la fois, donne beaucoup d'agentivité aux acteurs, mais en même temps, reste prisonnier sur certains aspects d'un lecture un petit peu déterministe de la Révolution française.
Bah, ça rejoint un petit peu ce que je disais au départ, qu'il n'a pas eu beaucoup de contact avec le rapport aux archives, et donc que finalement, les archives, même s'il ne faut pas simplifier les archives, parce que ça reste souvent des archives étatiques qu'on a, mais il y a quand même diverses sources maintenant qui permettent d'avoir accès justement à une vision un petit peu subjective de des révolutions. C'est-à-dire où on voit des acteurs, comme je disais, être transformés, vouloir agir, revenir en arrière, enfin en tout cas, ne pas être dans uniquement un schéma prédéterminé. Donc ce retour aux acteurs, finalement ce retour à une forme aussi de vision par le bas, hein. Il y a eu beaucoup de travaux sur l'histoire par le bas, dans le sillon de Guérin, qui a été une sorte de précurseur pour le coup, hein, qui ont donné la parole à ceux qui ne l'ont pas, qui ont donné la visibilité, notamment aux femmes qui n'en avaient pas à l'époque, qui étaient assez inaudibles. Et donc quand on est au plus proche comme ça de la parole des acteurs, on se rend compte que la révolution, et ben ce qui fait une révolution, c'est pas seulement le passage d'un modèle à un autre sur le plan structurel, c'est aussi des modèles de subjectivation qui se connaissent. Et ces modèles de subjectivation politique se traduisent par des conflits aussi, hein, par des constructions de soi, des récits de soi aussi, hein, ça rappelle tout le travail d'Aïn Berstein sur le protagonisme révolutionnaire. Et dans cette construction de soi, il y a bien sûr quelque chose qui échappe toujours, c'est ça aussi qui est intéressant dans l'histoire, qui fait la charge de l'histoire, aux pures lectures déterministes. Je pense qu'il y a cet aspect de subjectivation qui est assez peu présent chez Guérin, qui est lié à l'état des sources qu'il pouvait avoir accès aussi à l'époque.
Et mais peut-être que là où finalement il donne quand même un petit peu de marge de manœuvre aux acteurs, c'est précisément en montrant que la Révolution française à cette période donc de la Première République, donc lui je concentre principalement sur 1792-1794, donc en gros de l'établissement de la Première République suite à la chute de la monarchie le 10 août 1792 jusqu'à à peu près la chute de Robespierre globalement en juillet 1794, montre bien comment est-ce que la bourgeoisie révolutionnaire est prise dans plein de contradictions, qui fait que finalement ça offre de la marge de manœuvre en fait.
Oui. Tout à fait, oui, il y a tout à fait une capacité d'agir chez Guérin, hein, je ne voulais pas dire le contraire. Hein. Enfin, justement, ce qui est intéressant chez Guérin, c'est la tension entre capacité d'agir et structure. Et je pense que c'est une piste qui est tout à fait intéressante à poursuivre pour les historiens d'aujourd'hui, c'est d'être dans cet entre-deux, entre d'une part structure et conjoncture révolutionnaire, c'est-à-dire montrer qu'il y a des dynamiques propres aux mécanismes révolutionnaires qui échappent à une pure lecture structurelle, mais qui s'explique par ce que c'est qu'un bouleversement révolutionnaire, simplement. Sinon, c'est pas une révolution s'il n'y a pas de l'incertain, de l'imprévisible, des possibles qui s'ouvrent qui n'existaient pas avant. Donc ça, c'est ce qui fait révolution. Donc c'est ce rapport entre structure-conjoncture et ce rapport, comme je disais après, entre structure et subjectivation. pense que c'est les deux tensions, et Daniel Guerra nous aide à ouvrir les pistes pour penser cette mise en tension.
C'est un aspect très intéressant, finalement, aussi du récit historique de Guerra, qui montre un petit peu toutes ces tensions, et je trouve intéressant, finalement, la manière dont son récit progresse, centré autour de cet affrontement entre bourgeois et Bramu, mais aussi de la contradiction de la bourgeoisie révolutionnaire, et ses différentes fractions, en plus, par rapport notamment à la question de la guerre, à la question de la satisfaction des demandes populaires. Donc, par exemple, pour les montagnards, donc notamment incarnés par des figures comme Robespierre et Saint-Just, vont avoir, disons, l'intelligence, enfin d'essayer, disons, de capter l'énergie du mouvement des sans-culottes pour renverser les Girondins qui, du fait qu'ils n'étaient pas prêts finalement à une transformation trop radicale, vont finalement se tourner vers la contre-révolution. Il montre bien, je pense, Guérin, le fait que successivement, les différents partis de gouvernement au pouvoir, les Feuillants, puis les Girondins surtout, puis même Danton après, c'est-à-dire en gros, on va dire la droite entre guillemets des Montagnards, vont successivement penser que l'appui des masses populaires comme il nécessite des mesures anti-libérales, entre guillemets, notamment le maximum dont on a parlé, et ça va aller jusqu'à des mesures inquisitoires, du genre rentrer chez les riches pour vérifier s'ils n'ont pas stocké des lingots d'or, etc. Toutes ces fractions vont successivement se tourner vers la contre-révolution, la paix avec l'Angleterre, la monarchie, etc. Et que, au final, la seule faction qui au début est ultra minoritaire, celle de Robespierre, et qui paraît la plus radicale, va être finalement celle qui va arriver au pouvoir précisément parce qu'elle a compris le coût de ce soutien populaire. Mais en même temps, et ça c'est intéressant aussi chez Guérin, en même temps, ce soutien populaire, elle le fait parce qu'elle est intéressée.
Elle l'instrumentalise, oui.
Elle l'instrumentalise parce qu'elle veut gagner la guerre, en fait. C'est son principal objectif. Elle a des intérêts matériels derrière. Même si je pense que chez Guérin, disons, ces montagnards de gauche, entre guillemets, ou manufacturiers d'armes, de manière assez rapide, on ne sait pas trop comment essayer. Par contre, ce que je trouve intéressant chez Guérin, dans son analyse, c'est que finalement, moins que lié à l'industrie de l'armement, en fait, les tanières de gauche vont être les représentants de cette nouvelle classe que lui, il appelle les plébéiens. Et j'ai toujours trouvé une catégorie d'analyse historique très intéressante, parce qu'il introduit une catégorie entre justement les bourgeois et les bramus. Dans l'analyse marxiste, il n'y a pas grand-chose au milieu. Et cette figure des plébéiens, donc notamment qui sont incarnés politiquement par les hébertistes, par Hébert, sont ces espèces de gens, disons, qui viennent des classes populaires, qui savent parler aux classes populaires, mais qui, de par le fait qu'ils ont accédé à des positions dans l'appareil d'État, etc., finissent par avoir des intérêts matériels divergents, en fait, parce que leurs intérêts matériels, c'est d'avoir un État de plus en plus fort, un État autoritaire, un État qui ramasse beaucoup d'impôts.
Cette figure aussi des plébéiens, je pense, vient répondre à cette figure de l'intellectuel qui vient traverser aussi la pensée de gauche. Quelle est la place de cet intellectuel qui a accès à l'éducation plus que les classes populaires, mais qui veut prendre le parti des classes populaires? Est-ce que lui, il a des intérêts divergents des classes populaires parce qu'il a eu cette éducation? Enfin bref, cette figure trouble de l'intellectuel avant-gardiste, etc., qui est aussi celle de Guérin, en fait. C'est pas quelqu'un qui vient d'une origine populaire, Guérin. Je pense que ça vient aussi, il veut essayer de trouver une place comme ça, à ces transfuges, en fait. Hein, ces transfuges qui vont jouer des rôles d'interaction entre les milieux, des milieux qui ne se parlent pas forcément bien. Donc il faut ces intermédiaires, en fait, pour que certains événements, certaines alliances se produisent.
En fait, ce qui est intéressant, c'est justement, lui, il est assez critique, en fait, de ces intermédiaires.
Oui, mais pour moi, je le lis comme une espèce de lecture un peu paradoxale par rapport à sa position à lui. Et je pense que ce qui anime aussi toute la classe intellectuelle qui s'engage dans les révolutions.
Finalement, Guérin, là-dedans, il va plutôt s'identifier à d'autres transfuges, mais qui, eux, n'ont pas des intérêts matériels si divergents que ça des classes populaires, mais qui ont en même temps un capital culturel, entre guillemets, supérieur, qui sont les enragés. Et lui, je pense que Guérin, finalement, il s'identifie vachement à ce groupe, parce que lui, il a un très important capital culturel, mais finalement, effectivement, il ne fait pas partie d'un appareil d'État ou d'une place d'encadrement dans
l'entreprise. Ouais, c'est juste.
Donc cette faction de la bourgeoisie révolutionnaire qui, petit à petit, va prendre le pouvoir, non pas de manière mécanique, mais plus simplement parce que sa droite, à chaque fois, va se tourner vers la contre-révolution et par une nouvelle poussée populaire, ce qu'il faut bien dire.
Ça, il y a un mouvement de dynamique de radicalisation qui fait qui vient d'en bas, clairement, qui va les conduire au pouvoir, oui.
C'est parce que la faction qui est au gouvernement, qui a le pouvoir, semble reculer ou va vers la contre-révolution, que derrière il y a une poussée populaire, et que finalement des gens qui étaient ultra minoritaires vont prendre le pouvoir, ils vont pas prendre le pouvoir tout seuls. Et c'est parce qu'il y a ces poussées populaires. Mais mais ce qui va se passer, c'est que une fois que ces gens qui ont l'air, disons, d'incarner les intérêts populaires vont être au pouvoir, bah, il va y avoir des tensions, en fait. Des tensions entre les classes populaires et, disons, et les robespierristes, qui vont se traduire par voilà, la liquidation des enragés en, à peu près à l'été 1793, c'est ça? Et ensuite, le clivage va se réduire, et c'est là où on voit que, finalement, le gouvernement robespierriste, en ayant éliminé l'extrême gauche peut-être la plus intéressante, va se retrouver avec des adversaires qui, finalement, sont de plus en plus de droite. Puisqu'ensuite, Guérin en parle de comme une espèce de diversion, la déchristianisation. Donc, toute une campagne, disons, dans l'automne 1793, où en gros, on s'en prend aux églises, on les désacralise, on en fait des lieux de sociabilité, on s'attaque aux prêtres, on s'attaque à la religion. Et c'est beaucoup les hébertistes qui sont derrière ça, nous dit Guérin. Et disons que lui, son interprétation, c'est que les hébertistes qui sont maintenant quasiment au pouvoir, puisque c'est la faction, disons, la plus proche un peu des robespierristes. En tout cas, ils tiennent la commune de Paris, comme tu l'as dit. Mmh. Il ne faut pas confondre avec celle de 1871,
voilà,
c'est simplement l'instance de pouvoir, une des principales instances de pouvoir à Paris, après le gouvernement et l'Assemblée révolutionnaire, le comité de salut public, plus précisément. Eh bien, eux vont, du coup, animer cette campagne, mais à un moment, Robespierre va considérer que ça va trop loin, que ça tape trop les fondements de l'ordre public bourgeois. Il faut dire que Robespierre s'inspire d'une conception de la révolution qui était celle de Jean-Jacques Rousseau. Évidemment, s'il pose plein de problèmes, notamment en termes de genre, on va voir que dans la deuxième partie, que le moment robespierriste est un moment de contre-révolution de genre, notamment avec la fermeture des clubs féminins révolutionnaires. Mais pour en revenir à cette déchristianisation, Robespierre s'y oppose parce que finalement, lui, il entend créer une espèce de nouvelle religion, une espèce de religion républicaine, et qui est basé toujours sur l'idée d'un ordre, d'un état, d'une société de classe bien ordonnée. Et c'est pour ça que Robespierre, oui, bien sûr, qui critique un petit peu les inégalités, comme Rousseau.
Oui, il a critiqué les inégalités, ça c'est clair.
Il critique les inégalités, il critique même la propriété privée, mais il ne remet pas en cause,
non,
fondamentalement, l'ordre bourgeois, quoi.
Exactement, oui. Non, ça c'est sûr que... Et même quand on regarde, par exemple, ces projets éducatifs, parce que c'est toujours intéressant de regarder les projets éducatifs pour voir quel projet d'avenir, le succès d'avenir, les révolutionnaires proposent, j'imagine. Robespierre a fait partie de ceux qui ont soutenu le projet de l'EPC de Saint-Fargeau. On a toujours dit, ah ben voilà, c'est un projet très célèbre qui reste dans les annales, parce que ça voulait... Il y avait une volonté de rassembler tous les enfants de toutes les classes sociales dans un creuset scolaire dès la plus tendre enfance, donc on les retire de l'influence familiale, si vous voulez, et on les met dans des pensionnats sur le modèle spartiate, ils ont une mode de vie très vertueuse et rigoureuse, pour l'idée qu'on va fabriquer l'égalité pour, en gros, saper ce qu'on dirait aujourd'hui les habitudes de classe. Et donc le soutien de Robespierre à ce projet de PC Saint-Fargeau, il y a eu un mythe comme quoi il y aurait une volonté comme ça d'abolir la classe par l'éducation. Mais quand on regarde de près ce projet-là, il n'y a pas du tout l'idée qu'après l'école, les gens vont pas retrouver leur destinée sociale. Voilà, c'est l'idée par contre qu'ils vont accueillir la vertu, c'est-à-dire qu'ils font passer l'intérêt public avant leur intérêt particulier. On travaille sur leur neuf, ça c'est sûr. Mais par contre, ça n'a pas du tout l'idée qu'on va remettre en cause la division du travail, en fait, tout simplement. Après, les enfants de Bramure continuent à être Bramure, et les enfants de bourgeois continuent à être enfants de bourgeois. Donc, je trouve ça emblématique de voir comment il y a pu avoir une peur comme ça, une création d'un fantasme autour de ce projet éducatif qui est finalement radical pour certains aspects, mais au fond, ne remet pas en cause les structures de la société qui apparaissaient de la Révolution.
Un peu comme tout le projet ensuite de l'école républicaine à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. Bon, bien sûr, c'est une version plus...
Oui, c'est un peu plus radical quand même de ce modèle-là, parce qu'il y avait vraiment cette idée que les enfants de bourgeois devaient... apprendre à vivre comme de manière à comprendre la situation des pauvres, etc. Donc c'est vraiment toute cette notion de vertu qui est centrale chez Robespierre, qui est pour lui une théorie de l'égalité, mais c'est une théorie de l'égalité républicaine.
Idéaliste un petit peu.
Complètement idéaliste, exactement, c'est ça. Donc pour moi, c'est vraiment ça qui dit ça, c'est dire qu'il n'y a pas la pensée de l'égalité chez Robespierre, c'est absurde, c'est quelque chose qui l'obsède, c'est un thème qui revient en toute son œuvre, etc. Mais on n'est pas sur une vision de la construction d'une égalité concrète par une transformation radicale des rapports de domination structurés dans la société.
Oui, oui, donc du coup, ça reste un peu une idéologie, en fait.
C'est là où ça reste une idéologie. Enfin, moi, c'est mon point de vue, en tout cas. Mais
oui.
Je pense que c'est point de guerre aussi.
Et ça permet d'expliquer notamment pourquoi est-ce que finalement Robespierre, tout en poursuivant finalement des idéaux qui semblent très nobles, au nom du triomphe de ces idéaux qui passent pour lui d'abord par la victoire militaire, va à partir de la fin 1793 s'engager dans un processus toujours plus autoritaire et répressif, dont parle Guérin de manière très intéressante, enfin l'arrêt de la déchristianisation, un gouvernement de plus en plus fort et autoritaire, l'élimination ensuite des hébertistes, qui commençaient à gêner, qui faisaient un second pouvoir et qui finalement ne servaient plus les objectifs de Robespierre. Ensuite, toutes les mesures qui avaient été prises dans le domaine de l'économie sous pression des classes populaires, on va y mettre fin, notamment le maximum. Et puis après, bon, bah, évidemment, sur le plan politique, il va y avoir finalement toute la vie des sections, la vie de la démocratie directe va progressivement
disparaître. Oui, le grand moment de la vie des districts et des sections, là où il y a vraiment une effervescence démocratique, c'est 91-92, hein. C'est là où il y a le plus d'inventions de pratiques démocratiques, ça c'est sûr.
Oui, ça déplace finalement la chronologie par rapport à l'idée que 92-94, c'est vraiment le grand moment.
Oui, sous cette zone-là, oui, si on prend sur l'effervescence démocratique comme critère, c'est sûr que c'est pas la période la plus radicale, le moment 93-94.
Oui, surtout 93-94, c'est vraiment le moment où...
Une mise à l'ordre, tout simplement. Hein. Et une volonté de... C'est toujours pareil, on est aussi... Il faut voir aussi dans quel contexte. On est quand même dans une mise en danger constante de la République. Donc il y a cette idée qui est défendue, donc par des termes, mais donc pas du tout le seul, il faut pas du tout lui donner plus d'importance qu'il n'en a, et retomber dans ce mythe de l'homme... qui pense tout, en tout cas, c'est cette idée que si on n'agit pas avec autorité, si on ne rétablit pas un pouvoir fort, et bien la République et la Révolution va mourir.
Qui est un petit peu finalement le même type de justification qui vont être utilisées pendant la Révolution, et finalement que les nécessités de la guerre civile rendent nécessaires des mesures extrêmement
autoritaires. La théorie des circonstances.
Voilà. La fameuse théorie des circonstances.
C'est ça.
Et qui vont mener à une espèce de radicalisation autoritaire de Robespierre, enfin du régime du comité de salut public, plus précisément, qui effectivement n'est pas que celui de Robespierre. Et qui vont l'amener finalement à se couper de tous ses alliés. Donc d'abord il va éliminer les Aubertistes, puis après il va éliminer les Dantonistes. Et puis finalement, à un moment, en tout cas c'est ce qu'explique Daniel Guérin, ayant perdu le soutien populaire, puisqu'il a réprimé les enragés, les Aubertistes, il a dissous la Commune de Paris, il a dissous toutes les structures de démocratie directe, il a mis fin à toutes les mesures, qui étaient populaires, antilibérales notamment, qui permettaient, à la population de Paris, de faire mieux face à ses besoins de survie, et couper aussi du soutien de la bourgeoisie, les possédants, parce qu'ils pensent que ça va beaucoup trop loin, en fait, et l'autoritarisme de Robespierre, finalement, lui-même, coupé de toute balle, en fait, va se trouver renversé, quoi. Et là, le récit est complètement différent dans le bouquin de Guérin par rapport à celui de Hazan. C'est-à-dire qu'Hazan, c'est presque une espèce de, un dernier discours enflammé, très beau, il est renversé finalement par la bourgeoisie de droite, alors qu'en fait, il est renversé par, effectivement, la bourgeoisie de droite, mais parce qu'il a éliminé tous ses soutiens, quoi.
Oui, tout à fait, complètement. Ce que propose Guérin, c'est vraiment cette idée, effectivement, qu'il a petit à petit sapé les branches sur lesquelles il était assis. Ce qui n'est pas faux, par contre, ce qu'il ne dit pas aussi, c'est qu'il y a toute une partie, pour le coup, des classes populaires qui ont désapprouvé, finalement, des mesures comme le maximum, si on peut dire. Des réactions contre le maximum qui ont eu lieu après, parce que finalement ça a eu des retombées économiques pas si positives parfois pour les subsistances. Voilà, il a perdu aussi des soutiens, pas seulement par ces mesures répressives, mais aussi parce que certains ont vu dans les mesures faites au moment intense de l'été 93 des voix qui ne répondaient pas aux aspirations même de la survie populaire.
Oui, ça c'est quelque chose que Guérin d'ailleurs souligne, l'inefficacité en fait d'un gouvernement autoritaire de l'économie.
Voilà, c'est ça, qui ne répond pas tout de suite à un problème d'urgence qui est quand même première l'urgence vitale du peuple. Enfin, des classes populaires, une nouvelle fois, faisons attention aussi, j'utilise le terme peuple, mais si il y a tant de malentendus aussi, et c'est ce qu'essaye de lutter Guérin, c'est cette malentendu qui peut exister et qui traverse toute l'histoire politique française entre le peuple et les classes populaires. Parce que, évidemment, quand Robespierre parle du peuple, il parle aussi du peuple, la nation, il parle aussi du peuple en tant que souveraineté, de pour le pays, il parle pas forcément des classes populaires. Et donc,
Il inclut toutes les classes, d'ailleurs.
Et il inclut toutes les classes, oui. Et là, encore aujourd'hui, dans les, là, on voit bien dans les, ceux qui disent vérité dans l'État, il y a la volonté de garder cette même, ce même malentendu. Parce que c'est un malentendu aussi qui permet de faire un discours sur l'unité et finalement de pas poser le problème de l'antagonisme d'intérêt.
Bien sûr. Mais c'est là où finalement, ce qu'on pourrait peut-être conclure sur ce livre de Bourgeois et Branly, c'est que c'est une clé de lecture intéressante sur la Révolution française qui permet de repenser pas mal de débats qu'on a fait que effleurer,
oui,
tellement il y en a. Et aussi, c'est quand même un antidote politique à pas mal d'idées voilà, de la gauche, de gouvernement, y compris de la gauche dite radicale, entre guillemets, disons de la gauche étatiste, plus généralement, par son analyse finalement de la centralité du pouvoir de classe, par sa critique finalement des avant-gardes soi-disant de gauche, mais en réalité des avant-gardes bourgeoises, une critique qui s'étend jusqu'aux plébéiens, donc et aujourd'hui c'est pas si difficile de penser à qui seraient les plébéiens, et aussi une critique d'une forme de gouvernement, enfin d'idée que, de l'idée qu'il suffirait d'étatiser le capitalisme pour que tout se résolve, enfin voilà, il y a quand même pas mal d'idées dans ce livre qui sont intéressantes aujourd'hui. Après évidemment, le fait qu'il les plaque en partie sur la Révolution française, ça crée des tensions, mais c'est aussi intéressant.
C'est une interprétation, évidemment, que maintenant, avec toute l'évolution de l'historiographie, il y a eu énormément de travaux sur des choses très précises qui bien sûr fait qu'on ne peut pas se suffire de la lecture de Daniel Guérin, et voilà. Mais c'est une interprétation aussi, moi qui m'intéresse aussi par son rapport au passé qu'il propose. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a mis mon intérêt pour Daniel Guérin. C'est cette réflexion qu'on avait donc avec un petit groupe, là, on a fait un livre collectif sur l'idée de référence au passé, où on a essayé de distinguer, dans ce petit livre qui est dirigé par Michel Rio-Sarcey et Claudia Moati, on a essayé de distinguer ce qui relevait de ceux qui veulent faire un usage du passé et ceux qui font une référence au passé. Et dans l'idée d'usage du passé, c'est l'idée on prend le passé, on l'instrumentalise et pour servir une cause, etc. Mais en tout cas, il y a l'idée que le passé n'existe plus vraiment et qu'on peut le manier, on peut le réussir, on peut en faire une chose qu'on essaie. Et la référence au passé qui est cette idée plutôt que le passé est toujours vivant, en fait, à travers encore le présent, que faire appel au passé, c'est en faire un moteur, notamment un moteur de lutte, un moteur de résistance, etc. Et je trouve que David Guérin, c'est quelqu'un qui n'est pas dans une lecture d'usage, c'est quelqu'un qui fait appel au passé, qui interpelle le passé pour animer une dialectique passé-présent réelle qui permet l'action aussi, qui permet de dégager des possibles dans son présent. Et ça, je trouve que c'est ce rapport au passé qui est aussi très précieux, au-delà de sa proposition là sur l'interprétation.
C'est une belle conclusion de cette première partie, et donc on vous retrouve après une pause musicale.
Chantez génie créateur, il faut une chasuble dame. Chantez génie créateur, il faut une chasuble dame. Nous en tissons pour vous, gens de l'église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous serons bleus. Pour gouverner, il faut avoir manteaux et rubans au poids. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans au poing. Nous en quittons pour vous, grands de la terre, et nous, pauvres canuts, sans drap, on nous enterre. Règne arrivera, quand votre règne finira, mais notre règne arrivera, quand votre règne finira, nous tisserons le linceul du vieux monde, et l'on entend déjà la révolte du monde.
Nous n'irons plus mieux, nous n'irons plus mieux.
du capitalisme, consacré à la Révolution française, lutte de classe, de genre et décoloniale. Et nous sommes toujours avec notre invitée, Caroline Fayol. Et cette fois-ci, après avoir longuement parlé des luttes de classe dans la Révolution française, autour de l'ouvrage de Daniel Guérin, Bourgeois et Brami, nous allons maintenant parler des luttes de genre, de féminisme, au cours de la Révolution française, étant entendu que ces concepts sont utilisés ici comme des catégories d'analyse et non pas comme des concepts contemporains, mais on prend le parti ici qu'ils sont quand même pertinents à utiliser et qu'on n'est pas toujours obligé d'utiliser des termes d'époque, notamment parce que le concept de genre permet de rappeler que la masculinité et la féminité sont des constructions sociales, et le concept de féminisme permet de pointer effectivement le fait que la lutte pour plus d'égalité ou pour l'égalité totale en général entre ces deux groupes sociaux, les hommes et les femmes, c'est pas une invention du 19e ou du 20e siècle, mais c'est un combat qui traverse notamment la Révolution française. Alors peut-être pour commencer, est-ce qu'on peut partir un petit peu des rapports de genre en France pendant la période de la Révolution française, rapidement, simplement pour voir dans quel contexte on s'inscrit, notamment, je pense notamment à tout l'idéal révolutionnaire de la femme comme simplement citoyenne passive, qui finalement est privée de droits politiques, finalement qui se voit assigner une place dans la société qui n'est pas du tout révolutionnaire, qui est en gros de produire de nouveaux citoyens, de les éduquer.
C'est vrai que des particularités de la Révolution française, hein, c'est très vite avoir émis cette fameuse déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et en même temps, ce texte a été évidemment la proclamation de ces principes mis en contradiction toujours avec des réalités de rapports de domination et des rapports de domination de classe, mais aussi coloniaux, comme on l'a rappelé tout à l'heure, mais aussi de hommes-femmes. Donc les femmes vont être, dès le départ de la Révolution, des actrices très importantes du mouvement révolutionnaire, notamment par les femmes du peuple lors des fameuses journées du 5-6 octobre 1789, hein, où elles vont aller chercher le roi, le ramener de Versailles à Paris. Donc il y a un rôle clé, hein, de ces femmes. Pour autant, même si elles ont été partie prenante de la Révolution, hein, les rapports dominants structuraux entre les sexes, hein, vont faire que, même dans une période de révolution, où là, pour le coup, normalement, ces moments structuraux sont déstabilisés, ils vont être déstabilisés parfois, mais quand même, il va y avoir une grande résistance sur la question de l'égalité homme-femme. Enfin, c'est peut-être là où il va avoir le plus de résistance, d'ailleurs. Alors, du coup, effectivement, il va avoir rapidement une division sexuée du travail politique. C'est-à-dire, ce que j'entends par là, c'est que on va construire le système représentatif sur une distinction qui est entre citoyen actif et citoyen passif. Et donc ça, c'est CIF, hein, qui est 89, c'est cette distinction. Donc en gros, les citoyens actifs sont ceux qui ont les droits civils et le droit de vote, et les droits politiques. Et les citoyens passifs, c'est-à-dire ceux qui sont reconnus comme citoyens, hein, mais qui ont, parce qu'ils ont des droits civils, mais qui n'ont pas les droits politiques. Donc parmi ces citoyens passifs, il y a au début de la Révolution française les plus pauvres, notamment, et les femmes, dans leur majorité, et les domestiques. Les femmes, donc, dès le départ, vont être reléguées dans ce fameux statut de citoyen passif. Alors même qu'elle joue un rôle actif dans les insurrections populaires révolutionnaires qui ont permis les dynamiques révolutionnaires. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe une fois qu'il y a cette c'est tout un système de justification du coup de cette remise en cause de l'égalité dans un régime qui est censé être fondé sur l'égalité. Et donc plein d'argumentaires qui vont fleurir, hein, pour essayer de définir quel doit être le rôle de la femme dans une société nouvelle qui éclot la Révolution. Et donc, la Révolution française va vouloir aussi, enfin les révolutionnaires vont vouloir redéfinir qu'est-ce que c'est qu'une bonne féminité, qu'est-ce que c'est qu'une bonne masculinité. Et c'est là où c'est intéressant pour l'histoire du genre, parce qu'on peut historiciser comme ça comment les normes de masculinité, féminité évoluent au cours du temps, et les moments révolutionnaires sont intéressants parce que c'est un moment souvent où on va re-questionner ça. On va dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut comme modèle de féminité, qu'est-ce qu'on veut construire comme femme future et comme homme futur. Et donc là, comme d'habitude, parce qu'on entend le chemin, il y a des conflits. C'est-à-dire que, évidemment, personne n'est d'accord, mais il va y avoir des points de vue qui vont l'emporter sur d'autres. Et donc, parmi ces points de vue majoritaires qui vont l'emporter au début de la Révolution, ça a plus être une vision, effectivement, où on va retrouver la figure de la femme au foyer, une valorisation de la femme au foyer. Alors, on pourrait me dire, bon, bah, c'est traditionnel, c'est sur le star, etc. En fait, non, parce que, déjà, d'une part, les femmes travaillaient largement pendant la Révolution française, comme elles ont toujours fait, d'ailleurs, elles ont toujours été majoritairement des femmes qui travaillent. Donc, le modèle de la femme au foyer, c'est un modèle très minoritaire, qui était, justement, ainsi un modèle bourgeois de féminité, qui tentait ici de s'imposer. Mais avec l'idée que les femmes du peuple obligées de travailler, bah, elles étaient forcément pas en adéquation avec ce modèle. Elles étaient forcément un peu reléguées dans une féminité pas bonne, pas, un peu légèrement déviante, parce qu'elles ne pouvaient pas accéder à cet idéal de la femme au foyer. Donc il y a déjà cet aspect-là. Et puis d'autre part, en fait, ce modèle de la femme au foyer s'est construit aussi contre le modèle aristocratique, qui était largement fantasmé pendant la Révolution française, hein, où il y a eu toute une construction de qu'est-ce que c'était que la femme aristocrate dégénérée. Donc il y a beaucoup de représentations comme ça, d'une femme égoïste, pervertie par des vices, de la richesse, qui ne cherche qu'à ses propres plaisirs, qui est dans la luxure, bien sûr, qui se détourne complètement de ses enfants. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle aux nourrices, etc., et qui n'est pas ce modèle vertueux de la femme au foyer. Donc on comprend bien que ce modèle de la femme au foyer qui commence à se formaliser finalement pendant cette période-là, et qui est en opposition en fait avec un modèle aristocratique, une nouvelle fois largement fantasmé, et un modèle populaire aussi de féminité.
Et par rapport à ça justement, femmes qui sont absolument repoussoires, c'est ce que tu appelles les femmes monstres, dont tu parles dans ton article L'universalisme en conflit, et qui ont un peu justement les vices dont tu parlais des femmes aristocrates.
En fait, il y a plusieurs choses. Tout d'un coup, va s'instaurer plusieurs critères de bonne féminité, et ces critères vont évoluer déjà d'une part, pendant la période de la Révolution. C'est pas statique. Ce qui est sûr, c'est que la prostituée, elle incarne effectivement une figure d'une féminité déviante qui ne peut pas incarner ce modèle vertueux. Voilà. Donc il y a tout cette exclusion, ce rejet de la figure de la prostituée. Mais pour autant, il y a d'autres figures répulsives. Il y a par exemple toutes les femmes qui cherchent à avoir une activité, par exemple intellectuelle, qui serait une activité dite masculine. Donc ils vont transgresser une distribution des rôles. C'est par exemple toute la figure de la femme savante qui est stigmatisée et qui est un repoussoir. Hein. Il faut éduquer les femmes mais jamais à devenir des femmes savantes. Et il y a aussi ces femmes, dont là je parle dans l'article, qui elles sont des féministes avant l'heure, qui vont elles refuser aussi cette division des rôles sexués en prenant part à la vie politique. C'est-à-dire, elles refusent d'être seulement citoyennes passives et qui commentent la vie politique, mais vont chercher à véritablement s'engager dans la politique et réclamer des formes d'égalité entre les sexes. Et en réclamant ces formes d'égalité entre les sexes, elles vont donc devenir ce que j'appelle ces fameuses figures monstres, parce que là, pour le coup, je me réfère au discours de l'époque qui les traitait de monstres, hein, tout simplement, parce qu'elles étaient vues comme des femmes qui n'étaient pas vraiment des femmes, puisqu'elles sortaient de leur rôle, mais qu'elles n'atteignaient pas non plus le statut d'homme, donc elles n'étaient ni hommes ni femmes, et elles étaient donc des figures monstrueuses, parce qu'elles transgressaient cette division. Et donc je pense que ce qui est clé en fait pour comprendre toutes ces stigmatisations, c'est le concept plus général qui avait été développé par les féministes matérialistes il y a bien après, des années 70, 1970 cette fois, hein, c'est la notion de division sexuelle du travail. Ça marche pour le travail sexuel, avec la prostitution qui peut être vue comme travail sexuel, mais marginalisée, invisibilisée, et stigmatisé.
Comme chez Paola Tabet.
Voilà. Voilà, exactement. Grand féministe. Et puis, ça marche aussi pour la division du travail entre travail productif et travail reproductif. C'est-à-dire qu'on attend des femmes qu'elles jouent avant tout un travail reproductif, qui n'est pas seulement le fait de faire des enfants, mais c'est aussi s'en occuper et plus généralement s'occuper de toutes les tâches du quotidien qui permettent que la société puisse continuer à se reproduire, en fait. Donc, elles doivent prendre en charge majoritairement ces tâches de reproduction. Et ce qui, moi, m'a intéressé dans mon livre sur l'éducation et le genre, c'est que j'ai aussi montré que cette division du travail, sexuelle du travail, elle est aussi au fondement du système politique révolutionnaire tel qu'il se met en place. C'est-à-dire que pourquoi les femmes majoritairement vont être considérées comme citoyennes passives, non plus comme et pas comme citoyennes actives, c'est parce qu'on estime que la division entre citoyens passifs et actifs doit se calquer sur cette division sexuelle du travail qui est dit naturelle.
La différence des sexes.
Qui est la différence de sexe, mais qui est basée vraiment sur l'activité du quotidien. Qui fait quoi dans le quotidien? Donc, il y a vraiment la question du travail qui est clé et pas seulement des essences. Et donc, du coup, il y a l'idée, notamment, chose qui revient très fréquemment dans les archives que j'ai analysées, dans les discours que j'ai analysés, c'est l'idée que si les femmes commençaient à faire de la politique ou à être éduquées pour qu'elles puissent en faire plus tard, tout simplement, elles n'allaient plus s'occuper de ces tâches du quotidien qui permettaient de libérer le temps des hommes. Donc, il y a vraiment un rapport très matériel à la division sexuée du travail, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler de seulement de principes, d'idées, ou je sais pas quoi, c'est vraiment comment on fait pour organiser le quotidien. Et cette idée que les femmes s'occupent de ces fameuses tâches dévalorisantes, invisibles, pour pouvoir que le citoyen puisse avoir du temps à la fois pour son travail collectif et pour son travail de citoyenne.
Oui, justement, là-dessus, c'est intéressant parce que, évidemment, celui qui a théorisé cette espèce de division totale, un petit peu, entre sphère privée et sphère publique, la sphère privée dévolue aux femmes et la sphère publique aux hommes, c'est Rousseau notamment, et ça me fait penser même aussi à Proudhon, dont on a parlé dans une émission avec Francis Dupuy-Déry, qui faisait de la condition du socialisme anarchiste, justement, une espèce de division stricte où les femmes s'occupant finalement de tout, les hommes pourraient aller faire une démocratie directe, vivre en anarchie. Et c'est vrai que cette espèce de division radicale, elle est vraiment au fondement de l'ordre politique républicain, c'est un ordre qui est vraiment masculin. Je parlais de différence des sexes tout à l'heure parce que, en référence à un ouvrage de Thomas Laqueur, La fabrique du sexe, qui parle un petit peu de la Révolution française en émettant l'hypothèse que finalement on a commencé à développer toutes ces considérations sur une anatomie qui serait soi-disant si différente entre les hommes et les femmes, alors que jusque au milieu du XVIIIe siècle, on considérait que c'était une anatomie qui était identique, simplement qu'elle se matérialisait pas de la même manière, et qu'en gros, il y aurait besoin de renforcer la différence naturelle pour justement concilier ça avec une égalité abstraite. Dire finalement, ok, tous les hommes sont égaux de manière abstraite et conceptuelle, on peut plus dire comme dans l'Ancien Régime, les femmes sont subordonnées aux hommes tout comme les vassaux sont subordonnés aux seigneurs. Il y a besoin d'une nouvelle légitimation qui passait par une référence à la nature. Mais toi, ce que tu dis, c'est assez intéressant, je ne sais pas si c'est complémentaire ou contradictoire, c'est qu'il y a quand même aussi toujours une justification d'ordre fonctionnel et social à ça.
Oui, alors, il y a plusieurs choses là que tu dis qui sont importantes, sur lesquelles aussi je voulais rebondir. En fait, ce qui est compliqué avec Rousseau, c'est que oui, il a théorisé l'idée qu'il y avait une sphère du privé, qui était le domaine réservé aux femmes. Il y avait ce modèle justement d'idéal de la femme au foyer, qui est notamment dans le personnage de Sophie, dans son livre Les Nuls, qui est développé. Mais en même temps, c'est beaucoup plus compliqué que ça chez Rousseau, dans le sens où, pour lui, il n'y a pas imperméabilité non plus entre sphère privée et sphère politique. Et pendant la Révolution française, d'ailleurs, c'est la même chose. C'est-à-dire que la Révolution, ça a été une période de politisation des affaires privées. Évidemment, parce que comme tout temps un peu révolutionnaire d'ailleurs, c'est le politique qui prime sur et qui transgresse les sectorisations habituelles. Et c'est pour ça que la figure de la femme au foyer, c'est pas la figure de la femme au foyer telle qu'elle a pu s'élaborer par exemple au 19e siècle, c'est ce que j'ai appelé en référence aux travaux d'Elsa Dorlin la matrice, ce qu'elles sont prêtes, la matrice de la race, c'est la matrice des citoyens, c'est-à-dire que oui, elle n'est pas citoyenne, mais elle doit produire des futurs citoyens. Et dans cette idée qu'elle produit du citoyen, c'est-à-dire que c'est depuis le privé, en fait, depuis la sphère privée, que se construit la sphère du politique. C'est pas l'idée de deux sphères totalement étrangères, comme on peut le voir sur le 19e siècle, par exemple. Il y a beaucoup plus d'étanchéité entre les deux modèles, dans les modèles majoritaires. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de rapport de pouvoir là-dedans. Bien sûr qu'il y a un rapport de domination extrême, mais pour autant, il y a un rôle politique des femmes. C'est ça qu'il faut comprendre.
Même chez Rousseau, en fait.
Oui, c'est chez Rousseau. Non, mais c'est vraiment
chez Lénine, en fait.
Oui, complètement. Rousseau, il y a cette idée que le citoyen, ça dépend des femmes, en fait. Il n'y a pas de citoyen, il n'y a pas de cité. S'il n'y a pas des femmes vertueuses qui fabriquent des citoyens et qui leur transmettent les principes républicains, etc. Donc il y a cette idée-là déjà d'une part. Et d'autre part, en fait, chez Rousseau, l'idée de mettre... En fait, il y a plusieurs textes de Rousseau, ça dépend de quel texte on choisit, etc. Mais chez Rousseau, et chez les révolutionnaires par la suite, on va retrouver la même tension. C'est qu'il peut avoir la nature au sens physiologique, c'est-à-dire qui va s'appeler beaucoup sur les textes médicaux, ce que tu te référais à Laqueur. Et donc là où il est dit, on va trouver une différence biologique, c'est la femme est déterminée par son utérus, choses comme ça. Et en même temps, toute une autre définition de la nature, qui est cette fois-ci une définition politique de la notion de nature, qui renvoie plutôt à un ordre très social, qui vient légitimer le nouvel ordre politique, la société nouvelle.
Le contrat social.
Pour le contrat social pour Rousseau. Et pendant la Révolution française, il y a cette idée que cette société nouvelle, elle se base sur la nature, mais que la nature correspond justement à un idéal de répartition des activités. Justement. Et ça rejoint cette idée fonctionnelle. Et non plus un modèle purement physiologique, déterministe, physiologique. Et c'est pour ça que chez les révolutionnaires, il faut qu'on construise la nature. Il y a toute cette idée-là. Il y a l'idée qu'il faut fabriquer, permettre aux hommes et aux femmes de réapprendre leur nature. C'est-à-dire de retrouver cet élément perdu, dégénéré par l'ancien régime et par les pratiques aristocrates, par justement une éducation nouvelle, notamment.
Et en fait, finalement, cette rhétorique révolutionnaire, elle ouvre un peu une brèche, et c'est pour ça que dans ton texte, tu montres bien comment des féministes comme Théroigne de Méricourt jouent justement sur cette ambiguïté pour dire, mais nous, en tant que femmes, on va produire les nouveaux citoyens, donc il faut, pour enseigner la liberté, pour transmettre la liberté à nos enfants mâles, il faut qu'on nous connaisse nous-mêmes la liberté. Donc elle joue sur cette espèce de contradiction un petit peu dans le discours révolutionnaire pour dire, bah oui, mais nous aussi on doit être libres, nous aussi on doit être des citoyennes actives. Ça, c'est quelque chose d'assez chronique dans l'histoire du féminisme, hein, jusqu'aux années 70. Donc, cette idée de s'appuyer sur la taille, un petit peu la brèche ouverte dans l'idéologie dominante pour dire, bah nous aussi en fait on veut l'égalité, quoi.
Oui, tout à fait. En fait, on est face à des discours qui sont des discours sous contrainte. Et s'il n'y avait pas de contrainte, ben, il n'y aurait pas de rapport de domination structurelle, justement. Leurs paroles, alors, des fois, elles sont stratégiques, et on en a la preuve parfois qu'on sait qu'elles sont stratégiques, des fois, on sait même pas si c'est forcément pensé de manière stratégique ou si elles-mêmes ont intégré des normes et cherchent à juste jouer un peu avec elles. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme l'exemple que tu donnes, c'est que pour la plupart des femmes de la Révolution française qui ont cherché à faire avancer la cause des femmes, la question de l'égalité, beaucoup d'entre elles ne sont pas allées frontalement dans une transgression radicale, genre par exemple, je veux le droit de vote, comme a pu faire Olympe de Gouges ou Marie Wollstonecraft, qui sont elles des très très minoritaires. La plupart des femmes, pour agir, ont essayé ce que j'appelle de modulation des normes. C'est-à-dire qu'elles ont tenté de redéfinir les normes, les réinterpréter, et trouver, et comme tu dis, des failles pour pouvoir petit à petit en fait proposer des manières où elles peuvent, elles, affirmer leur agence publique et pour le coup leur capacité d'agir.
Oui, notamment Théroigne de Méricourt qui va proposer une idée qui est finalement très radicale, celle d'armer les femmes. Mmh. Donc qui casse un petit peu le monopole masculin sur les armes dont parle Paola Tabet. Mmh. Dans son livre La construction sociale de l'inégalité des sexes, dont on a fait une note de lecture d'ailleurs, comme sur le livre de Thomas Lacker. Mais finalement, pour des motifs presque patriotiques, elle est proche des Girondins, donc finalement c'est presque pour la défense nationale en fait qu'il faut armer les femmes. C'est intéressant toute cette manière de jouer sur les ambiguïtés un peu de l'idéologie dominante pour parce que finalement les phases où des féministes ont vraiment attaqué frontalement le patriarcat, c'est assez rare, quoi. Il y a les années 70, plus récemment, mais...
Il y en a eu quand même, hein. Marie Wollstonecraft, une Anglaise, mais qui est présente pendant la Révolution française, elle, ce qui est considéré maintenant comme une des grandes pionnières du féminisme occidental, c'est vraiment quelqu'un qui, elle, est plus à la marge de la vie politique en France. Elle est venue, elle a beaucoup observé, elle a été intégrée dans des réseaux de socialité, mais elle n'était pas dans l'action directe, mais elle a écrit des livres. Et dans ses livres, justement, elle a posé, en fait, tout un ensemble à la fois de réflexions et de revendications qui vont nourrir complètement les luttes féministes suivantes. Où là, il y a vraiment une attaque, justement, de la division sexuelle du travail, où il va avoir une remise en cause aussi, donc, de l'idée que les femmes doivent être exclues de certains domaines du savoir, et puis l'égalité politique entre les sexes. Voilà, il y a des personnages comme Fanny Raoul aussi, qui était, elle, à toute fin de la Révolution, une femme journaliste, qui a écrit un texte très 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 fort aussi, où elle a vraiment aussi, elle s'est appuyée sur l'idée qu'il y a une contradiction de l'universalisme révolutionnaire. Donc elle rapproche la condition des femmes à la condition des noirs pour montrer à chaque fois que dans ces paradoxes, il fallait non pas seulement juste constater ces paradoxes, mais faire en sorte qu'il fallait concrétiser et achever cette promesse universaliste. Non pas seulement dire que c'est un masque qui va cacher les inégalités. Et donc ça, il y a eu des femmes qui sont allées dans une perspective radicale de remise en cause de ces rapports de domination. Mais est-ce que des femmes, effectivement, très très marginales, qui n'ont pas encore fait mouvement, comme on peut voir avec les mouvements féministes, qui, eux, apparaissent vraiment à plutôt la fin du 19e, début 20e siècle. où là c'est des mouvements de masse.
Oui, non, mais c'est vrai que tu as raison de préciser, moi aussi j'ai particulièrement apprécié voilà, la critique de Wollstonecraft, en plus qui s'attaque un petit peu, bon, à la fois à la domination bourgeoise, notamment quand elle dit quel intérêt finalement de remplacer l'aristocratie de naissance par l'aristocratie de la fortune,
ah,
une
oui,
critique de la bourgeoisie, une critique de l'esclavage aussi, c'est une abolitionniste. Et puis une critique du patriarcat assez assez frontale, où elle propose même une, comme tu le dis dans ton article, une éducation pas dégenrée évidemment, mais une éducation qui brouille un petit peu le.
Oui, oui, elle dit qu'il faut viriliser les filles. Elle part du modèle que la virilité correspond finalement à la liberté. Et que donc du coup il faut viriliser les filles.
Comme Beauvoir un petit peu.
Voilà, ça peut faire appel à Beauvoir, effectivement. Et donc du coup, oui, oui, on est vraiment dans l'idée que c'est l'éducation peut être un des. Parce qu'elle était institutrice, voilà. Et être, selon elle, une condition pour transformer radicalement les identités sexuées. Donc ça, bien sûr, c'est un élément important. Après, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que ces pionnières du féminisme ont à chaque fois été quand même l'objet d'une répression évidemment très très forte. Et c'est ce que j'essaie de montrer aussi dans l'article, c'est une répression qui est à la fois dans les faits, une répression comme Théroigne de Méricourt, ou des violences physiques, qu'elle a eu ces fameuses fessées patriotiques, comme on l'appelait à l'époque, hein, c'est une pratique qui existait notamment aussi à conflits religieux, hein, c'est un aussi des fessées patriotiques, c'est-à-dire qu'on les fessait publiquement, hein, donc c'est une humiliation publique contre les ennemis de la Révolution. Et donc Théroigne de Méricourt a été fessée publiquement par des femmes révolutionnaires qui n'étaient pas du même bord politique qu'elle. Et elle, bon voilà, elle ne s'en est jamais remise, et elle a sombré dans la folie peu de temps après. Et c'est vrai qu'il y a dans ces répressions qu'il y a contre ces femmes, il y a toujours aussi une répression qui est sexualisée. C'est-à-dire que même la répression est genrée. Olympe de Gouges, quand elle était sur l'échafaud, on a rappelé justement que c'était une femme monstre, on a insisté sur le côté ni homme ni femme de l'Olympe de Gouges. La Palme d'Eldorf, elle a été aussi accusée d'être avant tout une femme de mauvaise vie, etc., qui multiplie les aventures, etc. Et donc il y a toujours cette idée qu'il fallait les remettre à l'ordre aussi sur le plan sexuel. C'est-à-dire que les montrer qu'elles incarnaient justement des déviances sexuelles et pas seulement des déviances politiques. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup aussi été lié à l'histoire du féminisme. Jusqu'à peu, en fait, hein, le féminisme était toujours associé à une forme de déviance sexuelle.
C'est un rappel à l'ordre moral, en fait.
Un rapport à l'ordre moral, à l'ordre des mœurs, voilà, avec l'idée que quand on veut brouiller les identités sexuées, on brouille les identités sexuelles aussi. Il y a toute une interaction entre le sexe et la sexualité.
Oui, c'est la grande peur qu'on retrouve dans toutes les pensées antiféministes, finalement. De l'indifférenciation.
Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, exactement.
Quelles vont être un peu les... Parce qu'il y a quand même une phase législative qui est un petit peu positive, par exemple le divorce en 1792.
Oui, voilà, effectivement, il y a eu l'octroi de droits civils supplémentaires pendant le moment du divorce, la loi sur le divorce, qui est faite au même moment que la proclamation de la République, donc septembre 92. Alors, il faut savoir que la demande du divorce, c'était quelque chose qui était excessivement importante dans les années 90-91, et c'était souvent relié à une demande démocratique, c'est-à-dire que c'était l'idée, il faut abolir la féodalité, non pas seulement dans la société, mais dans la famille. Et abolir la féodalité dans le mariage, c'était notamment permis par le divorce. Il faut comprendre ça, parce que sinon on ne comprend pas aussi tous les débats, par exemple, du 19e siècle sur le rétablissement du divorce, etc., où il y avait tout cet enjeu politique derrière de vouloir rétablir aussi la monarchie, hein, chez Bonald, interdire le divorce et rétablir la monarchie en même temps. Ça va ensemble. Et effectivement, cette loi sur le divorce, ça a été pris comme une avancée pour beaucoup de femmes de l'époque qui réclamaient le divorce, et ça leur a aussi donné concrètement quelques droits civils importants, ce qui fait qu'on a parlé même d'égalité des droits civils entre les sexes en septembre 92, au niveau de la gestion des héritages, etc. Des avancées, certes à mesurer, mais qui étaient quand même assez importantes, et qui a donné beaucoup d'espérance à des femmes qui espéraient du coup que la République allait apporter d'autres droits dans la lignée de cette déclaration de divorce. Donc il y a un moment d'ouverture du coup dans ces années, dans l'année 92, début 93. On va avoir, bon ça j'avais beaucoup étudié aussi des clubs féminins qui vont tout d'un coup prendre un essor très important dans toutes les villes de France, même aussi dans les campagnes. Il y a récemment un livre sur les clubs dans les campagnes. Donc une effervescence avec des sociétés parfois mixtes, parfois non mixtes. Donc il y avait déjà des premiers clubs politiques non mixtes, voilà, où les femmes pouvaient discuter des conditions de vie, etc. J'ai d'ailleurs trouvé des traces, comme par exemple une femme qui s'appelle Laforie, Bonaventure Laforie, qui qui est une femme qui est inconnue aujourd'hui, qui est totalement oubliée, qui était une femme des classes populaires, qui a elle-même écrit des textes totalement féministes, revendiquant l'égalité entre les sexes, dans ces petits clubs de province, voilà, donc il y a eu des paroles qui ont émergé comme ça. Et puis il y a eu un moment de fermeture qui commence à ce moment où, qui a été longtemps dit comme moment au contraire où la révolution est le plus radicale, qui est l'automne 93, et particulièrement, effectivement, il y a eu ce décret Amar, qui est un moment assez fatidique dans l'histoire des femmes pendant la Révolution française, hein. Amar, qui est en plus une figure très à gauche, et qui restera, enfin, c'est quelqu'un qui a beaucoup inspiré des penseurs communistes par la suite, et donc,
Ça en dit long.
Et donc, ils ont fait ce décret qui était dans un contexte très particulier, où, en fait, de lutte contre les enragés, dont on parlait tout à l'heure, et notamment la proximité d'un club de femmes qui s'appelle les clubs des citoyennes républicaines révolutionnaires.
Avec Colline Léon, c'est ça ?
Oui, et qui Claire Lacombe aussi, hein, qui étaient des femmes très engagées politiquement et qui, selon justement la convention, déstabilisaient un peu le jeu politique. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'ils ont décidé d'interdire tous les clubs féminins, avec un discours d'Amar assez retentissant qui rappelle justement la nécessité de faire une division des tâches entre les sexes et que c'est la nature qui l'ordonne et que la révolution doit suivre l'ordre de la nature. On a donc une décision qui est à la fois très circonstanciée et très liée à la conjoncture particulière et en même temps qui va avoir un impact plus général sur la vie politique des femmes qui vont donc ne plus avoir ces lieux spécifiques où vous pouvez s'élaborer une parole féminine. Et il y a un deuxième coup d'arrêt, parce qu'après, donc, les femmes ont joué un rôle important dans la sans-culotterie parisienne, hein, jusqu'en 1795. Et le directoire a été un moment, le moment où il y a eu la répression du mouvement sans-culotte, hein, notamment après les journées de Pré-Régal en 3, donc en 1795, au printemps 1795. Et là, les femmes ont été vues comme particulièrement bout de feu, particulièrement responsables de ces insurrections. Et donc, il y a un décret qui a interdit les femmes à se rassembler à plus de 5 dans la rue, ce qui va aussi être accompagné de tout un discours stigmatisant les femmes, ce qu'on appelle les tricoteuses, qui seraient ces femmes qui seraient proches de Robespierre, qui seraient pour la terreur, voilà, toute une figure comme ça qui a après animé tout le 19e siècle comme une furie, la furie révolutionnaire.
Et je finis, ces tricoteuses, ça faisait référence donc à ces femmes qui étaient au balcon des assemblées révolutionnaires et qui intervenaient de manière parfois véhémente et qui finalement troublaient justement cette séparation public privé, espace public masculin, espace privé féminin dont on parlait tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Alors ça a été étudié par Dominique Godinot, qui est donc une des grandes pionnières de l'histoire des femmes pendant la Révolution française dès la fin des années 80. Alors les tricoteuses, c'est un terme un peu bizarre, parce que des fois ça renvoyait, c'était une construction surtout post-révolutionnaire aussi, ça renvoyait à des femmes qui étaient sur les guillotines et qui regardaient avec avidité les spectacles de la violence révolutionnaire, mais ça renvoie aussi effectivement à ces femmes qui tricotaient dans les assemblées pour surveiller les représentants. Et ça, c'est très intéressant parce que effectivement ces femmes, en amenant leur tricot, qui est une activité normalement très symbolique de la vie domestique, en les faisant dans le lieu même du pouvoir, qui est l'Assemblée nationale, étaient en train justement de brouiller cette fameuse division sexuelle du travail, et qui est aussi une division des espaces. C'est une figure très intéressante, et je pense qu'il faut garder en tête, beaucoup de femmes de la Révolution française, je ne sais pas beaucoup qui ont réclamé le droit de vote directement, de manière claire, mais par contre, elles ont participé à définir un autre modèle de citoyenneté aussi. Et ça rejoint ce qu'on disait avec Guérin, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie des femmes des classes populaires qui ont défendu un modèle sans culotte de la citoyenneté, c'est-à-dire qu'elles estimaient qu'elles n'avaient pas à déléguer leur part de souveraineté et qu'elles étaient des citoyennes à part entière parce qu'elles faisaient le droit de pétition, parce qu'elles surveillaient les élus, parce qu'elles pouvaient les révoquer, parce qu'elles participaient aux assemblées locales, et que pour elles, la citoyenneté, c'était là où ça se faisait, et pas dans déléguer représentants, qui de toute manière est un moment pas démocratique, mais un moment du système représentatif. Et donc, il y a un modèle alternatif de citoyenneté féminin pendant la Révolution française qui s'émet et qui a été oublié et on ne voit plus, on est uniquement dans le schéma droit de vote, pas droit de vote, comme on l'a été énormément par la suite, parce que on a l'impression que l'activité politique se lie uniquement à travers la question du suffrage. Or là, on voit au contraire des pratiques politiques qui étaient inclusives, en fait, beaucoup plus inclusives en tout cas, même s'il ne faut pas idéaliser la vie des sans-culottes entre eux, il y avait tout aussi les rapports de domination, mais au moins des pratiques politiques qui permettaient aux femmes d'exister à part entière. Ça permet aussi de faire un petit peu le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure avec Guérin.
La Révolution française, encore une fois, elle est intéressante, encore une fois, comme référence historique, parce qu'on y voit pas mal de choses, donc déjà une politisation très importante, d'abord dans des espaces mixtes de politique un peu générale, comme on a eu, par exemple, à partir de 68, qui ensuite par la montée de ce que toi tu appelles une conscience de genre et qui me trouve que je trouve.
C'est Émile Ricard qui a théorisé cette notion de conscience de genre, voilà, auquel je me réfère. Ouais. Une politique de féministe très, très intéressante.
Ça, c'est un concept très intéressant parce qu'effectivement on voit pendant la Révolution française, c'est un événement qui n'était pas spécifique au genre, mais qui petit à petit, simplement parce que c'était un événement révolutionnaire, provoque une montée de la conscience de genre et qui provoque voilà, des remises en cause, une montée du féminisme, aussi la naissance d'une espèce de non-mixité révolutionnaire qui s'oppose à la non-mixité masculine qui d'ailleurs elle est toujours pensée comme allant de soi dans l'histoire de la Révolution française.
Et aujourd'hui,
évidemment, tu commences d'ailleurs ton article universaliste en conflit là-dessus, sur le fait que la non-mixité racisée des femmes, ou des femmes, et encore plus des femmes racisées, est toujours contestée alors que la non-mixité entre hommes blancs et bas de soi. On voit encore finalement, la Révolution française a encore une référence historique assez intéressante pour penser aussi des enjeux contemporains, et même dans le domaine de l'éducation, toi t'as particulièrement travaillé.
C'est vrai que j'ai été la première surprise quand j'ai commencé ma thèse. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de textes de cette période, qui n'était pas forcément fait par des personnes connues aujourd'hui ou qu'on a que l'histoire a retenu, mais qui estiment que voilà, on ne naît pas femme, on le devient, et ou on ne naît pas homme, on le devient, et que c'est aussi l'éducation et qui va construire ces identités sexuées, et que du coup, en fait, il n'y a pas de nature. Hein. Et ce discours-là, qui est aujourd'hui, maintenant, quand même, qui commence à avoir une audience aussi, un petit, dans cette lecture constructiviste des sexes, en fait, était déjà là parce qu'il y avait cette idée que la révolution, c'est aussi la croyance de l'action politique, et donc la croyance que l'éducation peut tout. Et donc, si elle peut tout, elle peut aussi fabriquer, des nouvelles fois, la différence sexuée, ou au contraire, l'abolir et fabriquer l'égalité.
C'est une belle conclusion de cette partie, et on va dans une troisième partie. Parler de la révolution de Saint-Domingue à partir de l'ouvrage de C.L.R. James et Jacobin Noir.
Différentes variantes. même beau qui être. Parfois le sauvage plonge dans la démence en rage. Se réduire un humain en miettes. Mais le passage du fouet le ramène au silence. Oui, la nature a fauté. Les plantes ont fauté. Toi, ton identité, c'est être la créature ratée. La nature a fauté. Les plantes ont fauté. Toi, ton identité, c'est être la créature ratée.
Et donc nous sommes toujours sur une émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à la Révolution française entre lutte de genre, de classe et décoloniale. Et donc nous sommes dans la troisième partie de notre longue émission consacrée à ce long événement passionnant qu'est la Révolution française. Et nous allons parler, après avoir parlé des luttes de classe et de genre, des luttes de race, entre guillemets, race étant entendue ici comme une construction sociale, mais qui est matériellement effective, comme le disait Colette Guillaumin. Donc une partie qui s'organise un peu, qui est un peu comme fil conducteur, disons, l'ouvrage de C.L.R. James, Les Jacobins Noirs, Toussaint Louverture et la Révolution de Saint-Domingue, paru aux éditions Amsterdam en 2017. C'est un grand classique hein, sur la Révolution de Saint-Domingue, et donc qui est fait par C.L.R. James, qui est un artiste noir. Il y a une très bonne biographie de lui, d'ailleurs, par Mathieu Renaud, et qui, en gros, va essayer de lier des questions de classe, puisque lui-même était trotskiste, et puis il va progressivement évoluer vers des positions plus anti-autoritaires, vers ce qu'on appelle le conseillisme, communisme de conseil, et d'autre part, lier des questions de race, et donc notamment des questions décoloniales, anti-esclavagistes, anti-racistes, et pas simplement les additionnant, mais en pensant ces problèmes ensemble, il arrive à faire de manière assez remarquable dans ce livre Les Jacobins Noirs. Et donc, pour parler de ce livre, nous sommes toujours avec notre invitée, Caroline Fayol, qui va donc nous éclairer un petit peu sur le contexte et aussi un peu les apports historiographiques, ses propres recherches, parce que nous sommes personnellement contentés uniquement de lire ce livre qui est passionnant. Et qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu pour planter le décor sur la société de Saint-Domingue juste avant la Révolution?
Saint-Domingue fait partie des colonies sucrières hein, de la France, avec les Antilles, comme par exemple la Guadeloupe. C'est bien sûr aujourd'hui Saint-Domingue porte le nom d'Haïti, hein, c'est le nom qu'elle a pris à son indépendance en 1804. Donc c'est une colonie sucrière où donc il y a l'usage de population esclave. On va avoir une population notamment de blancs colons qui domine la société de Saint-Domingue. Il y a toute une partie aussi ce qu'on appelle les Noirs libres, qui eux peuvent être donc d'anciens des métis ou des descendants d'esclaves mais qui ont été affranchis et qui ont pu, certains d'entre eux d'ailleurs, acquérir des propriétés, soit parce que par exemple leur père par exemple était propriétaire d'esclaves et propriétaire terrien et décide d'affranchir la mère qui était une esclave par exemple et son fils et lui donner des terres. Donc c'est comme ça que certains noirs libres ont pu avoir des terres. Certains d'ailleurs ont pu, parmi ces noirs libres, être propriétaires d'esclaves aussi, hein, il ne faut pas le nier, même si bien sûr c'est avant tout les blancs colons qui étaient propriétaires des esclaves. Et puis donc une population servile, largement majoritaire, noire, qui faisait avant tout ce travail dans les plantations, mais aussi qui avait ce rôle de domestique, notamment dans les grandes habitations de planteurs. Cette division est importante puisqu'il va très vite se former ce qu'on appelle un lobby colonial pendant la Révolution française, qui est mené par les blancs qui dominent dans les colonies, et qui vont essayer de défendre les intérêts coloniaux au sein de l'Assemblée nationale. Donc le lobby des colons d'une part, il va aussi avoir toute une part des Noirs libres qui vont tenter d'obtenir des droits de citoyens, et ils vont les obtenir d'ailleurs en 1791, pas donc tous les hommes de couleur, hein, mais les hommes de couleur libres. Donc on va avoir dans la métropole aussi la présence de gens représentants du lobby colonial et des gens aussi représentants des Noirs libres de Saint-Domingue. Voilà un petit peu par rapport à sa porte-de-porte. Et puis ce qu'il faut aussi dire, c'est que il y a en métropole toujours la présence d'un mouvement abolitionniste qui est porté avant tout par une société qui s'appelle la Société des Amis des Noirs, qui existait avant la Révolution, hein, dans laquelle on va trouver des figures comme Brissot, comme Condorcet, comme par la suite Olympe de Gouges justement, qui vont appeler à l'abolition de l'esclavage. Alors l'abolition de la traite d'une part, et puis l'abolition de l'esclavage. Et avec des débats qui les animent sur est-ce qu'il faut une abolition qu'on appelle gradualiste, c'est-à-dire par étapes. On n'abolit pas d'un coup l'esclavage, on le fait par étapes, on prépare la population à la liberté, comme je disais, et d'autres qui estimaient au contraire que l'abolition de l'esclavage devait se faire de manière immédiate. Donc des débats aussi parmi les abolitionnistes.
Après, on peut rajouter à ça avec James, d'une part, le fait que le statut de Saint-Domingue s'ancre dans une rivalité franco-anglaise. Ils en parlent beaucoup, d'ailleurs. Ils considèrent que les Anglais, finalement, sont des acteurs très importants et que, finalement, le fait que, dans les années 1780, il y a une espèce de tournant un peu abolitionniste du gouvernement anglais, hein. Bon, finalement, l'abolition n'interviendra qu'en dans les années 1831, mais qu'il y a une espèce de prenant de monter cette question de l'abolition de la traite, pas de l'esclavage, hein, juste de la traite. Et James montre bien, je pense, que l'adoption, disons, de ces idées d'abolition de la traite dans les cercles gouvernementaux britanniques est principalement liée au fait que c'est Saint-Domingue qui est la plus riche île esclavagiste, qu'elle procure 11 millions de livres à la France, alors que la Grande-Bretagne ne tire que 5 millions de livres de toutes les Antilles, et que du coup, finalement, les îles britanniques pourraient, disons, reproduire leur population d'esclaves, alors que Saint-Domingue a vraiment besoin de l'afflux de la traite, et que donc, du coup, finalement, abolir la traite, c'est un moyen d'asphyxier économiquement Saint-Domingue. Donc je pense que ça, c'est un truc qui est assez intéressant. On verra que les Anglais joueront un rôle aussi très important.
Très important, hein. Ouais, pour l'abolition de l'esclavage en tant que tel. Et il y a aussi le rôle des Espagnols.
Et les Espagnols.
Voilà. Donc c'est clairement un enjeu de rivalité européenne, car effectivement, c'est un jeu de richesse considérable, Saint-Domingue.
Et après, l'autre point que met en avant C.L.R. James, son analyse finalement est assez proche de celle de Guérin, d'ailleurs même de celle de la Révolution française en France métropolitaine, à Saint-Domingue. Il analyse aussi les fractions un peu de la race, du coup, des Blancs, entre des Blancs royalistes, plutôt attachés à l'administration monarchiste, qui sont souvent, bon, voilà, l'administration royale, les fonctionnaires royaux, et puis aussi une partie des planteurs, hein, pas tous, il y en a d'autres, et d'autres planteurs qui sont plutôt républicains, pour des raisons diverses et variées, et surtout les petits Blancs, les Blancs qui ne sont pas propriétaires d'esclaves, qui eux sont très républicains, et qui veulent s'affranchir de la tutelle, en fait, monarchique sur l'île. Et ce que montre C.L.R. James, c'est que finalement, dans cette rivalité entre Blancs, il va y avoir des espaces qui vont justement permettre d'abord aux Noirs libres de s'insérer dans le jeu en jouant les uns contre les autres. En l'occurrence, les Noirs libres, ça peut nous paraître étrange, mais on s'allie avec les monarchistes, en fait. Et ensuite, il va y avoir les esclaves qui vont arriver dans le jeu politique à partir de 1791 avec une gigantesque insurrection. Quoi.
Oui, tout à fait. Et puis ce qu'on peut aussi peut-être rappeler en termes de contexte, c'est ce qu'ont bien montré les historiens de Saint-Domingue, c'est que il y a aussi une fabrique de la race qui a lieu dans les années, enfin, la moitié du XVIIIe siècle, la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Ça a été un moment où on a commencé à subdiviser les appartenances de sang, avec l'idée que si on a un quart de sang, on avait un quarteron, un tiers, etc. Et certains qui avaient été considérés comme blanchis, parce qu'ils avaient eu des ancêtres noirs, mais ils étaient acceptés comme blancs dans la société de Saint-Domingue, avec ces nouvelles lois qui se mettaient en place sur les origines des habitants de Saint-Domingue, se retrouvaient tout d'un coup reclassés comme noirs, alors qu'ils étaient perçus comme blancs. Et donc, c'est aussi intéressant pour se rendre compte une nouvelle fois de l'historicisation de la race aussi, qui, loin d'aller de soi de qu'est-ce qui était noir, qu'est-ce qui était blanc, était aussi fabriqué par des mesures législatives et qui faisait flou ce qu'on appelait la ligne de couleur.
Oui, d'ailleurs, là-dessus, c'est intéressant parce qu'on voit comment est-ce que le racisme et la race sont toujours obligés de se reconfigurer pour remettre de l'ordre dans ce qu'on peut appeler des troubles à la race, notamment le phénomène du métissage. C'est typiquement ce genre de mesure, c'est-à-dire à partir du moment où il n'y a plus uniquement des blancs et des noirs, mais qu'il y a des individus qui se trouvent entre les deux, il y a besoin du coup de remettre une législation comme celle que tu as évoquée. Et justement, ça crée une espèce de troisième race qui va avoir des intérêts distincts des deux autres et qui va jouer d'ailleurs dans la Révolution un rôle vraiment distinct. Un peu à la manière d'une classe. C'est là où on voit finalement que, bon, évidemment, la race et la classe ne sont pas la même chose, mais que dans les deux cas, ce sont vraiment des entités qui sont définies socialement, quoi.
C'est ça, exactement, et qui bougent et qui sont sans cesse redéfinies selon les rapports des forces. Et d'autant plus que ces lois étaient là pour protéger une blanchité. Parce que les blancs se sentaient en minorité numérique, c'est aussi une volonté pour protéger son pouvoir et l'arrivée de ces noirs libres qui commençaient à prendre de la puissance à Saint-Domingue, la puissance économique, etc. Et bien du coup, de réaffirmer des lignes de couleur, ça permettait de protéger les intérêts économiques de l'élite supérieure. Donc c'est la classe qui fabrique la race aussi, comme la race fabrique de la classe. Enfin bref, là on est vraiment dans une logique plus où c'est pas seulement ajouter les rapports de domination, mais de montrer comment ils s'interfèrent et ils interagissent, ils se nourrissent les uns les autres.
Oui, ils se co-construisent.
Voilà, exactement.
Et justement, là-dessus, on voit que la révolution de Saint-Domingue est un phénomène complexe où il y a des divisions politiques, des divisions raciales, des divisions de classe qui s'entrecroisent. Et tout ça dans un contexte de rivalité géopolitique qui fait que finalement, au début, tout ça en ouverture qui est celui qui va incarner d'une certaine manière la révolution haïtienne, même si c'est pas lui qui va conduire à l'indépendance d'Haïti en 1804, au début va se retrouver dans le camp royaliste, puis va se retrouver dans le camp des Espagnols, puis va se rallier à la République. On voit qu'en fait, à chaque fois, son agenda, entre guillemets, c'est l'abolition de l'esclavage, et toute son armée d'esclaves, c'est aussi leur but. C'est de se libérer définitivement de l'esclavage, c'est leur préoccupation permanente. Et pour ce faire, il va s'allier politiquement à différents acteurs blancs au fur et à mesure des opportunités, des revirements. Peut-être pour revenir un peu chronologiquement là-dessus, parce qu'en fait, si on lit bien ce livre qui est passionnant, c'est quand même une histoire assez compliquée. Donc en 1791, il y a cette gigantesque insurrection d'esclaves. C'est vraiment une insurrection violente, il fallait pas s'attendre à grand chose d'autre, étant donné ce qu'a été l'esclavage, qui a été, comme le dit d'ailleurs C.L.R. James, qui est assez intéressant là-dessus, parce qu'il cache pas cette violence, il dit pas c'est merveilleux, il n'exalte pas non plus, mais il dit, bon, faut voir aussi la violence qui avait été infligée aux esclaves avant, quoi, depuis des générations. Donc, voilà. Mais enfin, toujours est-il qu'il y a cette espèce de violence presque expiatoire, libératrice, qui va donc permettre un nouvel acteur politique, qui va être donc ces esclaves en révolte, et en même temps, qui va complètement bouleverser le petit jeu politique entre blancs, royalistes, ceux que C.L.R. James s'appelle les mulâtres, donc qui sont les noirs libres, et en même temps les blancs révolutionnaires. Comment est-ce que du coup le jeu politique va se reconfigurer un petit peu avec cette insurrection
Alors oui, déjà ce qu'il faut dire, c'est que cette insurrection, elle va jouer un rôle moteur dans la dynamique qui va mener à l'abolition de l'esclavage. Et c'est vrai que longtemps a été dit en France métropolitaine que finalement la Révolution française avait aboli l'esclavage, etc. Oui, elles ont aboli l'esclavage, mais pas uniquement au nom des principes de déclaration des droits de l'homme et citoyen. C'est bien plus complexe que ça, et ça se joue notamment sous la pression à nouveau d'en bas, et notamment de cette révolte, cette insurrection d'esclaves. En fait, il y aura même plusieurs insurrections entre 1791 et 1793. Hein. Là où ça va transformer aussi les rapports de force, c'est ce rôle aussi la question avec l'Angleterre. C'est-à-dire que les esclaves qui commencent à se révolter, ils peuvent tout à fait passer du coup du côté de l'ennemi anglais. Hein, c'est une des grandes craintes de la France, c'est que, et d'ailleurs les Anglais essayent d'armer les esclaves français pour l'idée, avec nous vous aurez la liberté, et donc l'île va basculer du côté anglais. Donc face à ce risque-là, les révolutionnaires, alors qu'il y a beaucoup qui réclamaient la répression de ces insurrections de manière violente, etc., du lobby colonial dont je parlais tout à l'heure, et ben aussi il y a eu cette idée, bah oui, mais il faut surtout faire en sorte qu'ils restent avec la France. Donc il faut quand même leur accorder des choses pour qu'ils ne basculent pas avec l'Angleterre. Donc on voit bien que c'est à la fois l'interaction entre les révoltes d'esclaves en tant que telles et le conflit avec armé avec l'Angleterre qui va modifier en fait le point de vue de l'Assemblée nationale vis-à-vis de l'esclavage.
C'est marrant parce que finalement il y a encore un parallèle avec la France, c'est-à-dire que finalement le contexte de guerre, la pression de la guerre fait que les assemblées révolutionnaires vont être plus enclines à donner des droits, parce que c'est vrai que jusqu'au 1791, l'Assemblée révolutionnaire avait été même extrêmement réticente à ne donner ne serait-ce que des droits aux Noirs libres. Et en fait, avec le déclenchement de la guerre, et notamment la guerre avec l'Angleterre, qui se déclare donc en janvier 1793, si je me souviens bien, là, évidemment, ça change complètement, quoi.
C'est ça, exactement. C'est un peu la même chose. D'ailleurs, c'est cette figure du citoyen-soldat dont on a parlé tout à l'heure, qui émerge en 92, enfin après la guerre, déclaration d'avril 92. Il y a aussi cette figure qui va apparaître après du citoyen-soldat lié à l'abolition. C'est-à-dire que on va donner aux esclaves des armes pour qu'ils luttent contre l'Angleterre. Et ces citoyens combattants, du coup, on va leur octroyer la liberté, parce que voilà, ils ont combattu pour la France, et surtout ils sont armés, dans les faits. Donc voilà, c'est le rapport de force n'est pas du tout le même. Et ce modèle du citoyen combattant, que ça soit dans la métropole ou dans les colonies, ça devient aussi le modèle de citoyenneté, c'est-à-dire qu'à partir de là, qu'un citoyen combattant, il faut qu'il ait des droits politiques aussi. Alors pour juste préciser un petit peu les éléments de contexte, c'est qu'il y a donc des insurrections d'esclaves dans ce contexte de rivalité avec l'Angleterre jusqu'en 93, hein, où il y a eu à nouveau la métropole envoie des commissaires, notamment Fantonax à Saint-Domingue, et au départ c'était pas pour abolir le sage, ils l'ont envoyé pour résoudre la situation là-bas, mais il n'y avait pas du tout l'idée qu'il fallait abolir le sage. Et c'est dans ce rapport de force que les commissaires se sont rendus compte que s'ils n'abolissaient pas l'esclavage, ils n'allaient pas pouvoir garder ces fameux citoyens-soldats pour la France. Et donc, c'est dans cette pression-là que les commissaires ont finalement aboli l'esclavage avant même qu'elle soit déclarée officiellement par l'Assemblée nationale. Ce qui finalement n'a fait que à ratifier, valider, au nom tout d'un coup de principe, quelque chose qui a été fait sur le terrain dans un rapport de force direct. Et qui fait aussi que, du coup, ces citoyens-soldats, non seulement ça a été l'émancipation au sens d'abolition des esclavages, mais aussi l'émancipation politique, dans le sens où ils ont eu des, officiellement en tout cas, parce qu'après dans l'exercice c'est beaucoup plus compliqué, des droits politiques.
Oui, et ça a été créé finalement par le rapport de force, qui a été créé par l'insurrection, puis par sa structuration en une armée révolutionnaire de campagne, par Toussaint Louverture. Parce que juste avant, entre ces deux moments, il y a eu un moment où ça a failli, l'insurrection esclavagiste, ça a failli tourner court. Un épisode où, en gros, les chefs de la révolte ont quasiment vendu l'insurrection. Et finalement, à la dernière minute, notamment Toussaint Louverture a décidé de ne pas cesser.
Pour revenir sur la co-construction de la race et de la classe, et du genre. C'est un élément intéressant, ce moment de l'abolition de l'esclavage en 93 en tant que tel, fait par les commissaires envoyés par l'Assemblée nationale, c'est que les commissaires ont du coup promis la liberté aux anciens esclaves, et ils ont promis donc les droits politiques, mais que les femmes anciennes esclaves, évidemment, n'avaient pas accès, vu que les femmes n'avaient pas accès aux droits politiques. Et donc, la population servile qui a avant formé un tout, c'était les esclaves, devenaient tout d'un coup séparés entre les hommes et les femmes. Tout d'un coup, la dimension sexuée reprenait de l'importance, puisque seuls les hommes incarnaient ce modèle du citoyen-soldat, sachant que les femmes n'avaient pas été armées. Alors que lors des insurrections d'esclaves, des femmes ont participé à la violence tout autant. Mais là, tout d'un coup, il y avait une division des rôles, pour le coup, qui a été assumée et affirmée, et créée aussi par les commissaires. Et donc, du coup, c'est aussi intéressant, parce qu'à ce moment-là, va s'affirmer dans le sillon de l'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue, et ça, c'est Elisabeth Colwick qui le montre très bien, toute une redéfinition, justement, de la bonne masculinité noire. C'est-à-dire que être un homme, être un citoyen, être un homme libre, surtout, c'était avoir une femme attitrée, donc le mariage, qui était valorisé comme modèle, alors qu'avant les esclaves, c'était des propriétés du maître, donc il n'y avait pas l'idée que leurs enfants leur appartenaient, par exemple. Là, c'est la famille nucléaire qui vient définir l'homme libre, qui est chef de sa propre famille, qui dispose donc d'une autorité sur sa femme et sur ses enfants. Et donc, cette redéfinition de la masculinité, de la virilité, est censé redonner de la dignité à l'ancien esclave et lui permettre d'accéder à ce rôle du citoyen et donc d'effacer la race. Donc c'est au nom de la recréation d'un rapport de genre qu'on va réussir à tenter d'effacer, hein, les termes n'est pas de moi, hein, il y avait vraiment les commissaires qui disaient cette idée qu'il fallait effacer ce qu'ils appelaient le préjugé de couleur. Alors bien qu'en fait, bien sûr, ça n'annulait pas du tout le racisme, mais il y avait quand même cette idée que la régénération, l'émancipation des hommes esclaves passait par une assimilation au modèle du citoyen soldat blanc qui existait au même moment en métropole.
Oui, c'est intéressant. Là, on voit encore comment est-ce que, finalement, la figure du citoyen est une figure historiquement patriarcale ou structurellement patriarcale, quoi.
Bah là, on voit l'importance du colon, du discours colonial qui impose là des normes de conjugalité, notamment, des normes familiales et des normes de genre qui sont attachées à des populations qui, de fait, les avaient pas. Vu que l'esclavage rendait impossible la pensée d'une famille au sens tel qu'elle s'est définie par la suite.
Et c'est ce qu'on va d'ailleurs retrouver en Guadeloupe, en Martinique, après 1848, après l'abolition de l'esclavage.
Oui, oui, tout à fait. Et c'est quelque chose encore qui marque dans les situations aujourd'hui. J'étais à un colloque en Guadeloupe sur les rapports sociaux de sexe qui est organisé par Clara Palmist en Guadeloupe, où on voit que jusqu'à aujourd'hui, en fait, les rapports hommes-femmes sont complètement médiés par cette question de l'esclavage. La figure du père était effacée, en fait, pendant l'esclavage, et qui, du coup, ça a eu toujours eu un impact sur la structure familiale même, de rôle de pilier de la mère, et avec le père qui est potentiellement absent, etc., et qui a alimenté énormément de littérature sur le sujet et de réflexion sur ce rapport en femme, comme ça, qui aurait été biaisé par ces années d'esclavage, et en même temps redéfini par la colonisation aussi. Donc ils étaient pris par deux modèles qu'ils ne pouvaient jamais accomplir parce qu'ils n'ont pas pensé par eux-mêmes, soit à chaque fois étaient imposés, soit par la société esclavagiste, soit par la société, certes non esclavagiste, mais coloniale.
Oui, bien sûr, c'est là où on voit que même dans les mouvements anticoloniaux ou décoloniaux, il y a évidemment encore des éléments de colonialité qui sont incorporés inconsciemment. Je pense que Fanon en parlait, voilà, c'est quelque chose évidemment qui est important, en tout cas au moins à conceptualiser. Après, pour revenir sur la séquence de la révolution haïtienne, donc après l'abolition de l'esclavage, il me semble qu'entre-temps, les Anglais ont pris une partie de l'île, avec l'entrée en guerre et tout ça, qui vont essayer et réussir dans un premier temps à capter la sympathie en fait des propriétaires d'esclaves, parce que pour eux, les Anglais, c'est ceux qui vont rétablir l'esclavage, et même d'une partie des Noirs libres, qui considèrent que les Noirs anciens esclaves ont pris trop d'importance, et puis il faut dire qu'une partie des Noirs libres sont aussi propriétaires d'esclaves,
voilà,
c'est important. Et finalement, malgré tout, il va y avoir, en fin de compte, ça va prendre des années, mais une victoire militaire de Toussaint sur les Anglais, et Toussaint, du coup, s'appuie sur cette lutte contre les Anglais pour se légitimer auprès de la République, parce que finalement, c'est le rapport de force qui va créer le fait qu'il va devenir petit à petit le représentant de la République à Saint-Domingue. Et en fait, le pouvoir central en France ne le voit pas du tout d'un bon œil, mais ils sont obligés, par les nécessités de la guerre et par aussi le fait qu'ils n'ont pas les capacités d'envoyer une expédition militaire, récupérer l'île, ils sont obligés de faire comme ça. Pendant ce temps, Toussaint, en dehors finalement de l'abolition de l'esclavage, va essayer de gérer Saint-Domingue en essayant de rétablir la propriété. C'est là où on voit aussi les limites un petit peu de l'œuvre de Toussaint, qui n'était pas révolutionnaire sur tous les plans, clairement. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette période avant d'aborder le fait que Toussaint ayant bouté à un moment les Anglais hors de Saint-Domingue, du coup, plus rien ne s'oppose au fait que la France envoie une expédition militaire pour le vaincre lui.
En fait, ce rôle d'alliance avec la République se couple avec le projet sous le directoire d'un nouveau modèle colonial qu'on appelle colonisation nouvelle. Il y a un bouquin qui vient de sortir là-dessus, Marcel Dorigny et Bernard Guinot, Société de l'histoire coloniale et d'esclavage, qui rappelle que justement à cette période, tout d'un coup, on essaye de repenser une nouvelle colonisation qui soit adaptée justement aux nouveaux principes révolutionnaires. Donc à nouveau, on voit bien qu'il ne s'agissait pas du tout d'abandonner les colonies comme ça a pu se dire beaucoup, parce qu'il y a eu cette fameuse phrase qui avait été attribuée à Robespierre, qui périssent les colonies plutôt qu'un principe, qui a longtemps fait croire que du coup il y a eu un processus décolonial pendant la révolution, alors qu'au contraire, il y a eu une nouvelle dynamique coloniale qui se met en place, mais différente que celle de l'ancien régime, simplement pensée par le modèle républicain du directoire. Donc ça se fait en ce contexte-là, et donc tout simple, le directoire essaye de l'amener aussi comme une forme d'alliance avec les élites, qui va préfigurer un peu cette idée que la France dans ce modèle civilisateur, on retrouve déjà ces expressions qui commencent à apparaître, va s'allier avec des élites, des colonistes. Et donc, notamment, là, ça va être l'idée qu'ils vont proposer à leurs enfants d'être éduqués en France, notamment dans l'Institut National des Colonies, hein, qui accueille comme ça des figures des élites de Saint-Domingue.
Les enfants de Toussaint.
Les enfants de Toussaint, notamment. Avec l'idée qu'au petit à petit, on va agréger, en fait, on va reconstruire un fil, un lien avec la colonie par ce prisme-là. Du coup, il y a tout un rôle aussi, donc, des élites qui envoient leurs enfants être éduqués en métropole. Et par ailleurs, ça c'est ce que j'avais un petit peu travaillé sur aussi, la création d'écoles pour anciens esclaves à Saint-Domingue, qui avait pour but, là aussi c'est assez explicite, de leur transmettre les valeurs de la civilisation. Donc c'est là où on voit à nouveau que le racisme s'exprime, un racisme civilisationnel s'exprime, mais qui se veut pour assimiler en fait Saint-Domingue à la France.
Au nom du progrès, quoi.
Voilà, au nom du progrès. Donc c'est dans ce contexte-là que Toussaint Louverture, du coup, va être une figure assez aussi critiquée, par ailleurs, qui incarne aussi à la fois une figure glorieuse de Saint-Domingue, et à la fois, potentiellement, cette figure qui peut annoncer ce nouveau modèle de colonisation.
Mais à un moment, donc cette espèce d'idée du directoire, d'une espèce de nouvelle colonisation, qui se présente quasiment un peu comme après la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu cette idée un peu de l'Union française, donc un modèle assez assimilationniste, où on donne des droits, où il y aurait une relation plus équitable, elle va quand même changer avec l'arrivée au pouvoir de Bonaparte en 1799 en France. D'ailleurs là-dessus, Thierry Hergène a un chapitre très évocateur qui s'appelle « La bourgeoisie prépare le rétablissement de l'esclavage ». Est-ce qu'on pourrait revenir du coup là-dessus jusqu'à donc l'expédition effective qui a envoyé pour tenter de rétablir l'esclavage?
Alors oui, c'est effectivement, on parle vraiment du tournant consulaire, et particulièrement bien sûr du tournant de 1802, qui est l'année du rétablissement de l'esclavage. Donc en gros, les premières abolitions de l'esclavage a donc été depuis février 1794, si on prend le texte officiel, jusqu'à 1802. Et certains ont souligné les liens que pouvait avoir Joséphine avec qui vient de Martinique, avec le milieu colonial, enfin les grands propriétaires de Martinique, ce qui a sans doute participé à jouer un rôle, hein. Mais bon, quand même, ça n'explique pas tout. Mais Bonaparte va progressivement donc devenir un espoir pour le lobby colonial. Et en fait, ça va être, je dirais, il faut aussi le remettre dans un contexte plus large, qui est ce moment consulaire qui est un peu une mise au pas. Déjà que le directeur est une période quand même d'ordre. On va dire que là, il va avoir quand même tout un ensemble de discours visant à restaurer chacun à sa place, si vous voulez. Et du coup, il y a à la fois l'idée que c'est un moment où on va préparer le code civil. Dans ce code civil, Portalis va définir la famille à nouveau comme une entité hiérarchisée, où du coup la femme doit obéissance à son mari. Donc là, il y a une réaffirmation d'inégalité de genre très forte par ce code civil qui va être mis en place officiellement en 1804, avec le droit notamment des époux de frapper leur femme. Hein, on est vraiment dans une légalisation de l'autorité maritale. Et d'autre part aussi, une mise au pas de toutes les classes populaires. Les populations ouvrières sont encadrées, beaucoup plus réprimées et surveillées. Et d'autre part, donc, cette idée qu'il faut aussi rétablir une hiérarchie raciale. Donc on veut rétablir l'hiérarchie de sexe, de classe et de race, avec cette idée que c'est sur l'idée de hiérarchie que se fonde vraiment un ordre post-révolutionnaire. Donc c'est pour ça que là, vraiment, tous les moments où il pouvait avoir encore quelques petits éléments de déstabilisation sur le directoire vont s'éteindre, hein, dans ce moment consulaire. Et donc, Bonaparte, je pense, a aussi ce rapport aux colonies, ce rapport mis au pas, dans un contexte plus général de réaffirmation des inégalités, en fait, structurantes d'une société. Donc, je pense que c'est un élément qui a joué dans sa décision, et qui va amener à des expéditions, effectivement, qui sont d'une violence, enfin, c'est vraiment des années noires dans l'histoire de la France et l'histoire des colonies. On a vraiment des expéditions punitives, une violence extrême, pour rétablir l'esclavage aussi en Guadeloupe, hein, où il y a encore il y a eu des résistances très fortes, hein, bien sûr, et qui ont été réprimées dans le sang, et donc aussi cette volonté à Saint-Domingue de rétablir l'esclavage en 1802, qui à Saint-Domingue va entraîner par réaction à cette tentative de rétablissement de l'esclavage l'indépendance de 1804.
Oui, et entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que le général envoyé par Bonaparte, donc qui est Leclerc,
oui,
va réussir à obtenir finalement la capture de Toussaint en s'appuyant sur d'autres généraux noirs, et l'un d'entre eux, notamment Dessalines, va le trahir d'une certaine manière et va prendre la place de Toussaint, oui, et va lui réussir à obtenir l'indépendance d'Haïti en se faisant d'ailleurs en se proclamant empereur. Bon, enfin...
Voilà, après, c'est de pas dire non plus que c'était la démocratie haïtienne, bien sûr.
C'est ça.
Mais au final, c'est la première victoire, la première indépendance et la première fondation d'une république noire atlantique.
Oui, et finalement, on incite vraiment nos auditeurs et nos auditrices à lire l'ouvrage qui est passionnant, qui suit très bien et qui décentre l'histoire de la Révolution française. C'est ça qui est très intéressant, c'est que finalement, il fait toujours un peu des références à ce qui se passe en France et au prisme de Saint-Domingue, de Haïti, et c'est vraiment très intéressant parce que la Révolution française, d'habitude, c'est très eurocentrique, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment novateur dans ce livre à l'époque, quoi.
Complètement. D'ailleurs, on peut dire que on peut faire maintenant des approches globales de la Révolution française, faites par des historiens du global, qui visent justement à décentrer les approches et s'inspirent de S.L.R. James pour relire des événements à l'aune des sources que de Saint-Domingue, par exemple. Et c'est explique aussi, notamment, on a beaucoup insisté sur les transferts culturels de métropole jusqu'aux colonies, c'est-à-dire la revendication de droits, de vocabulaire politique issu de la métropole. Mais maintenant aussi, on montrait comment les discours, les pratiques politiques de Saint-Domingue ont aussi eu leur autonomie vis-à-vis du projet politique de la Révolution française.
Oui, ça renvoie au dernier point que je voulais faire de cette émission, dont tu parles pas mal dans l'universalisme en conflit, que j'ai trouvé très intéressante. C'est la manière dont tu montres que l'universalisme est pratiquement, pendant la Révolution française, un universalisme qui a principalement été masculin, blanc et bourgeois, en tout cas de par les acteurs qui l'ont porté, et par les acteurs qui ont bénéficié de ce, entre guillemets, universalisme.
Oui, c'est ça, mais par les privilèges,
C'est ça, une espèce d'universalisme abstrait. Et en même temps, tu opposes à cet universalisme abstrait, bourgeois, patriarcal et raciste, un universalisme concret, contradictoire, pluriel aussi, ça c'est, je trouve, très intéressant, hybride et monstre. Je peux revenir très rapidement sur cette idée que je trouve très intéressante pour finir cette émission.
Non, l'idée, c'est que c'est vrai qu'il y a une opposition qu'on retrouve encore des fois parfois dans certaines mouvances politiques d'aujourd'hui, où l'universalisme, parce qu'il a servi avant tout l'intérêt effectivement des blancs, des hommes, etc., des bourgeois, est rejeté en bloc, comme du coup la notion universaliste serait une notion de fait caduque. Or, ce qui me semble intéressant, c'est quand on revient dans le contexte d'émergence de cette notion, au lieu de voir une nouvelle fois qu'un aspect de la chose montrait qu'il y a eu des conflits autour de cette notion, et qu'il y a eu d'autres visions d'universalisme qui s'est émis au même moment et qui a alimenté énormément de luttes, en fait. Et donc, cet universalisme qui a alimenté des luttes, c'est un universalisme, effectivement, comme on parlait un petit peu avec Marie Wollstonecraft, qui a, je pense, conceptualisé un petit peu cette notion d'universalisme concret. C'est une idée qu'il n'y a pas seulement à déclarer des droits abstraits, il faut rendre concrets ces droits. Et donc, si c'est rendre concrets ces droits par des luttes, ça implique du coup la conflictualité. Et dans cette conflictualité, il y a aussi l'idée que l'universalisme n'est jamais achevé. Qu'il est toujours, je me réfère à Balibar justement, qui est le philosophe Balibar qui a théorisé cette idée-là aussi, hein, que l'universalisme, par essence, c'est un mouvement. Et c'est un mouvement qui est fait de conflits et de contradictions, et qui est, tant qu'il est en mouvement, je dirais qu'il a interagi, et les luttes aujourd'hui des racisés, en France par exemple, participent complètement à cette mise en mouvement de l'universalisme qui le rend vivant et qui fait qu'il a une portée révolutionnaire encore aujourd'hui. Et après, c'est vrai, l'expression hybride et monstre, c'est aussi pour rappeler que, au lieu de voir un universalisme qui implique que chacun justement soit à sa place et qu'il y a une affirmation d'identité à chaque fois, une identité particulière, il faut aussi rappeler que parmi les militants de l'universalisme congrès, ils insistaient énormément sur les hybridations justement de métissage, que ce soit hybridation de sexe, comme on l'a vu avec Winston Kraft qui voulait viriliser les filles, que ce soit le métissage comme on l'a vu aussi avec Saint-Domingue, hein, cette idée que l'universalisme passe par de l'impureté en fait. Politique aussi. Et cette impureté, loin d'être négative, elle est productrice de sens et de mise en mouvement.
Finalement, même des mouvements qui se pensent comme particularistes, à partir du moment où ils visent une égalité concrète, font référence quand même à l'idée que du coup...
C'est ça.
Et du coup, c'est un moment que tu cites dans ton article « Eleni Varikas ». Là, en l'occurrence, Eleni Varikas parle des droits de l'homme, tous les hommes sont nés libres et égaux, que finalement, il faut, comme l'universalisme, il faut pas le voir comme une réalité, parce qu'aujourd'hui, l'universalisme, effectivement, est une mystification qui cache les divisions inégalitaires de race, de classe et de genre, mais comme un projet politique, et pas nécessairement unidimensionnel, mais qui peut être pluriel. C'est pour ça que, par exemple, les apatistes parlent de pluriversalisme ou de pluriversalisme.
Tout à fait, c'est exactement ce qu'on dit là. Je pense là-dessus que toutes les luttes pour les droits et pour aussi une société anticapitaliste, comme les Chiapas par exemple, on va avoir aussi tout un travail de cette notion d'universalisme qui est clé pour justement faire que l'universalisme ne soit pas l'idéologie. Qui soit plus une idéologie qui soit un frein à l'égalité, mais au contraire, c'est quelque chose qui vienne transformer véritablement les rapports sociaux.
Et du coup, là encore une fois, pour conclure, l'universalisme, donc, qui est classiquement associé à la Révolution française en termes de genèse historique, bien sûr que l'universalisme bourgeois, patriarcal et raciste naît au moment de la Révolution française, mais finalement son antagoniste naît aussi au moment de la Révolution française, donc un universalisme, disons, de classe, donc celui des sans-culottes parisiens, un universalisme de genre, qui est celui de toutes ces féministes européennes dont tu parles dans ton article, et aussi un universalisme de race dont parle C.R. James, et qui est un peu le modèle de la révolution haïtienne, basé sur l'idée que l'égalité ne doit pas être simplement celle pour les hommes blancs, mais aussi pour tous les racisés. Même si, évidemment, par exemple, Toussaint Louverture n'incluait pas dans son universalisme les femmes, et c'est pour ça que l'approche intersectionnelle, du féminisme intersectionnel, par exemple celui du black féminisme en grande partie, elle permet d'aspirer à cet universalisme qui serait réalisé du coup par l'abolition en fait des divisions hiérarchiques de classe, de genre et de race.
C'est ça, et pour il s'agit pas d'idéaliser effectivement les acteurs de l'époque pour dire qu'ils avaient réalisé ces perspectives déjà, mais c'est chercher un peu, pour paraphraser Guérin, c'est la révolution et son double, l'universalisme et son double, c'est peut-être ça aussi qu'il faut aller chercher dans le passé pour agir aujourd'hui.
Bon, bah, c'était une très bonne conclusion, donc on remercie donc Caroline Fayol de nous avoir accompagnés pour cette très longue émission sur la révolution française, mais en même temps c'était un événement quand même un peu massif, et on a voulu aborder quand même trois aspects, et pas simplement rester à l'histoire politique comme trop souvent, et on espère que nos auditeurs et auditrices auront apprécié cette émission, l'ont trouvée intéressante et aussi éclairante pour les enjeux politiques contemporains. Voilà, merci.
Merci.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Connaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Une société raciste n'est pas la collection composite de groupes hétérogènes, mais fonctionne suivant un système de relations entre groupes de pouvoir inégales. Non, la race n'existe pas, si la race existe. Non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités.